Bonjour à tous, bonjour les beaux gosses. Jeudi, semaine de bonheur, semaine de rêve, plein de belles choses, plein de beaux streams. Il est un peu gros le sommaire, je vous laisse. Et puis une fin de semaine chill, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une fin de semaine un peu apaisée comme ça avec juste la revue de presse du matin, un petit peu de gaming le soir, pas de gros stream à organiser. Le prochain étant le Samplay que vous voyez à l'écran actuellement avec Aldé, pour les intimes, Aldériat, un streamer avec qui je n'ai encore jamais rien fait. Ça faisait longtemps que je voulais le recevoir. Donc n'hésitez pas à venir dimanche soir sur ma chaîne Twitch, 20h pour Samplay, l'émission où on explore la culture du jeu vidéo, avec Aldé, que j'avais rencontré à mon proche premier The Event. C'est Étoile qui me l'avait rencontré. Ouais, j'ai beaucoup de curiosité pour lui et pour ce jeu, qui est un jeu dont on en parle depuis longtemps. Un jeu exceptionnel, un jeu accompagné par une légende, Skyrim. Je n'en sais pas beaucoup plus, voilà. Et je compte bien sur Aldé pour m'en dire un peu plus. Voilà. Comment ça va, vous ? Salut Linux. Salut Lano. Maître Aldé, carrément. Vous connaissez un peu Aldériat ou pas ? C'est un vieux de la vieille, hein. Il est dans le paysage Twitch depuis super longtemps, hein. J'ai loupé la fin du stream hier, il est monté Sylvain, notre président. Non, Raziel Frost, pas hier, mais alors il y avait une très belle ambiance dans le stream, dans le chat, dans la team, c'était super. Depuis son époque, LOL chez Eclipsia. Tu n'es pas prêt, me dit Sarah. C'est un personnage ? C'est un personnage. Il va trouver son coach pour LOL avec Aldé. Grand fan de la première heure, sub depuis Eclipsia, me dit Lucas le paresseux. Ok. Ok. Sam, tu annonces quand ta candidature ? Je sais pas, hein, parce que j'ai l'impression que le climat politique est un peu tendu. J'ai l'impression que le climat politique est, comment dire, un peu tendu. J'ai l'impression qu'il y a une polarisation des opinions en France et une radicalisation pas forcément dans les idées, mais dans l'expression des idées. Oh là là, quel enfer. Donc je sais pas si le jeu en vaut la chandelle, quoi. Salut Zabouron, bisous à ta maman en vrai. Bisous à ta maman. Salut Sam, je regarde le replay de Samplay avec Camille Combal, obligé de mettre pause pour pas trop rire au boulot. On a bien ri. On savait que c'était une vanne. La présidentielle ? Quoi, le fait que je me présente à la présidentielle ? Tu penses que c'est une vanne ? Tu penses que je vais pas le faire ? Tu penses que je vais pas être élu ? Ok. Ok. Les autres, dites rien. Les autres, dites rien. Voilà, rien, très bien. Bon, est-ce que ça va, vous, d'abord ? Le travail, les amours, la santé ? J'ai tout mon avant-bras tatoué sur Skyrim, 4000 heures dessus. Trop heureux que tu fasses un Samplay dessus. Oh là là ! Et Razia, je t'attends dimanche soir. J'ai besoin de toi dans le chat pour me filer plein d'infos. Salut, Staff. Ça va ? Salut. Alors, Olinox, des congés qui arrivent, ça c'est cool. L'amour, c'est quoi ? Alors, l'amour, c'est... Alors, il y a Massalia du 51 qui me demande, mais l'amour, c'est quoi ? Alors, l'amour... Waouh ! L'amour... tu vois cette bouteille de lait ? L'amour. L'amour, c'est cette chose insaisissable qui est difficile à définir, mais étrangement, quand il est là, tu le vois. L'amour est enfant de bohème. Chante à un moment donné dans le chat. La mûre, c'est un fruit. Oui, Hiro. Tout à fait. Pardon. Certains dans le chat disent, je dois être aveugle alors. Oh, c'est mignon. J'ai la même question de ma fille de 4 ans et demi cette semaine, me dit Fabrica, dont j'étais pas prêt. Je lui dis, tu vois, papa et maman, eh bien, c'est ça. Oui, c'est la bouteille de lait, quoi. Oh, Mirk est en mode Sioran, est en mode Schopenhauer, est en mode pessimiste et nous dit l'amour, pacte tacite entre deux malheureux pour se louanger sans vergogne. Au nom de Dieu! Tu es avec le maître du monde, le chauve original, le grandiose Aldé. J'ai l'impression que Jomar, ce samplay qui arrive sur Twitch dimanche soir te plaît bien. Ah, je citais Sioran, je ne suis pas le seul. Qui cite Sioran? Voilà, nous avons des esprits éclairés et cultivés dans le chat. Moshama, 2501. L'amour, c'est savoir s'emmerder gaiement et volontairement pour les autres. C'est du Sioran, ça? T'es sûr? Sioran. Vous voulez que je vous lise quelques aphorismes de Sioran? Sioran, c'était un écrivain et philosophe roumain, je crois. Mais qui vivait en France, qui écrivait d'ailleurs en français, si je dis pas de bêtises, qui était un amoureux de. Et c'était le pessimiste originel. C'était le pessimiste originel. C'est une littérature, d'aucuns diront une philosophie, qui est vraiment empreinte d'un pessimisme radical. Et en même temps, il allait trouver dans ce pessimisme, il était très misanthrope aussi. Quelque part une raison de vivre puisque il restait parmi nous quoi. Quelques aphorismes de Sioran. Il est né en Roumanie, c'est ça. Il est mort à Paris en 95. Ok, je vais essayer de vous en trouver quelques-unes. Vous allez voir, c'est très très gai. C'est très très gai. C'est vraiment très très très. Ok. Alors, notamment, il a écrit un petit recueil qui s'appelle Syllogisme de l'amertume, qui était mon livre de chevet quand j'étais jeune. Voilà. Et pourtant, je suis toujours là. Comme quoi, on peut se relever de cet excès de pessimisme. Voilà. Il y a Homme Cool qui vient d'écrire Mystère Rago Gaucho. Reste avec nous, Homme Cool. Je suis sûr que tu peux enrichir ton vocabulaire avec ce qu'on va évoquer ce matin. Émile Sioran. Ne se suicident que les optimistes qui ne peuvent plus l'être. Les autres, n'ayant aucune raison de vivre, pourquoi en auraient-ils de mourir? Désunis, j'en ai plein. Nous courons à la catastrophe. Unis, nous y parviendrons. Sur la vie, on ne peut écrire qu'avec une plume trempée dans les larmes. Si l'on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur le champ. Que faites-vous du matin au soir? Je me subis. Ah, ah oui, il a écrit Syllogisme de l'amertume. Il a aussi écrit De l'inconvénient d'être né. Il a littéralement écrit un livre qui s'appelle De l'inconvénient d'être né. Ce titre me fascinait. Dans lequel il écrivait, conscience écologiste avant l'heure, des arbres massacrés, des maisons surgissent, des gueules et des gueules partout, l'homme s'étend, l'homme est le cancer de la terre. C'était un joyeux. C'était un joyeux. La seule fonction de ma mémoire m'aidait à regretter. La seule chose qui élève l'homme au-dessus de l'animal est la parole, c'est aussi elle qui le met souvent en dessous. Alors oui, tu as raison, le slit, c'est l'aigri originel, et en même temps, ce qui nous touche dans l'écriture de Sioran, c'est que le mec en fait des caisses sur le côté très dark de la vie, et de temps en temps on se dit, putain, en fait, l'enfoiré, il a raison. Et j'adorais lire Sioran. Celle-ci est excellente. Pardon pour les esprits un peu tristounes ce matin, il faut prendre ça au second degré. Hein. En fait, Suran, c'est très drôle. En fait, Suran, c'est très drôle tellement il en fait des caisses dans le pessimisme. Suran, ne nous suicidons pas tout de suite. Il y a encore quelqu'un à décevoir. Et le fait même que ce gars qui toute sa vie a écrit sur l'absurdité du monde, sur le fait que nous n'avons rien à faire là, le simple fait que ce gars a vécu et ne s'est jamais ôté la vie, ne s'est jamais suicidé, montre bien que la vie est formidable. Suran, j'adore. Si le dégoût du monde conférait à lui seul la sainteté, je ne vois pas comment je pourrais éviter la canonisation. Merci Grace Ware. Merci Jeannot pour les 5 abonnements faire la commu que j'ai vu tout à l'heure. Merci Étienne. Merci Ayam Mo, merci pour les soutiens. On lit du Suran ce matin. J'adore. Je vous en mets une dernière. Une petite dernière. Oh là, une avant-dernière. Aucune amitié ne supporte une dose exagérée de franchise. Aucune amitié ne supporte une dose exagérée de franchise. Et la dernière, je vais essayer d'en trouver une bien bonne. Une dernière. Oh, une dernière. Pourquoi je me ne suicide pas? Parce que les gens se demandaient, mais attendez, mais monsieur, que faites-vous ici-bas, quoi? Pourquoi je ne me suicide pas? Parce que la mort me dégoûte tout autant que la vie. Voilà. Émile Suran, mesdames et messieurs, écrivain, un philosophe roumain. Voilà. Il est mort 95, je crois. Ah, voilà. Et paradoxalement, dans la prose de Suran, je trouve beaucoup de raisons d'espérer et de vivre. Merci Auria pour le 16e mois, merci à Drogue Gamer pour le 26e mois, vous faites bien plaisir. Je vais être papa, les naissances vont augmenter grâce à moi. Voilà qui vient contrecarrer la prose tout en pessimisme et en noirceur de Suran. Voilà, une naissance, bravo Scut, profite bien. Oui, ça rejoint un peu... C'est une espèce de Camus très dark, quoi. C'est un Camus qui s'est levé du pied gauche, on va dire, quoi. Ouais. Sam, il fait froid dehors, tombe pas malade, s'il te plaît, bisous sur ton lobe d'oreille. Voilà la gentillesse de ce monde. Merci, Ragnoc. C'est vrai qu'il fait froid, je fais très attention. Bon, moi, j'avais un petit rhume en fin de semaine dernière, mais je l'ai filé Camille Combal. Il est arrivé dans le studio, je lui ai filé, j'étais guéri. Merci, l'inexorable. Beau pseudo. Merci pour ton prime. Merci Grace Square pour l'abonnement offert à Iron Deal. Merci Jeannot pour les 12 abonnements offerts à la commu. Que nouveau cette pluie de sub. Talon incroyable avec le roi Aldé. Ah, on va se régaler samedi. Au début, il devait le penser, mais après, c'est devenu son business model. Oui, c'est des bifs. Oui, je crois. Oui, je crois. Bigflo disait aussi qu'il ne pouvait pas être honnête avec ses amis. Ah bon? Mais si on peut pas être honnête, si on peut pas être honnête avec ses amis, on est honnête avec qui? Alors elle est intéressante cette phrase. C'est dans une de ses chansons, il dit ça? On ne peut pas être honnête avec ses amis? Mais moi, je suis honnête avec mes amis. C'est étrange, ça. Je sais pas. À quoi bon? Merci, mademoiselle Lise. Et je t'envoie un max de force pour cette période de chômage. Force. Gustaf nous dit, on doit commencer par être honnête avec soi-même. Après, c'est un prisme de départ. Merci Splax Again Ah, regarde, et qu'écrit Plax? Suran est l'un de mes écrivains favoris. Je pense qu'il a aidé à beaucoup de monde à s'accrocher à la vie. C'est incroyable, hein, comment cette philosophie pessimiste, bizarrement, a pu apporter de la lumière dans les esprits. Marrant ce truc sur. On est d'accord que, justement, ce qui fait une des choses qui font le prix de l'amitié, c'est justement de pouvoir se dire les choses, d'être. Ce qu'on attend dans le regard d'un ami, c'est de l'honnêteté, justement, de la délicatesse, de la gentillesse, de l'amour aussi, mais de l'honnêteté, non? Tiens, Francis est d'accord. On doit être honnête avec tout le monde, sauf les impôts, dit-il. Merci à un moment donné. Ah, Marine, mais m'explique un petit peu la pensée de Big Flo. Il n'ose pas donner son avis sur ce que font ses amis si c'est mauvais. Oui, d'accord, oui, j'entends, ok. Et Vanilla va plus loin. Il est parfois plus dur d'être honnête avec ses amis que des inconnus, par peur de les blesser ou autre. Ok. Oui, c'est pas faux, ouais. Ouais. Et Ploum 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 en rajoute une couche, merci mon ami. Il y a des gens qui pensent qu'être honnête, c'est avoir un comportement ultra désagréable. Oui, c'est vrai, on les connaît ces gens-là. Et on vous connaît, hein? Ah ouais, ah ok, j'entends. Ok, d'accord, je comprends. Je suis très honnête avec mes amis, me dit Hard Rock Gamer, mais un jour on a fait une soirée avec pour thème la franchise et l'honnêteté, et deux d'entre eux se sont frappés. Oh putain, l'histoire. Ils n'avaient pas compris qu'être honnête, ce n'est pas forcément être agressif. Oui, être. Ok. Oui, on peut être honnête avec un peu de diplomatie, quoi. Peut-être. Ok. Oui, Foxar sur Suran, je pense que tu as raison, c'est ça. Vous êtes plein à témoigner sur Suran. Foxar me dit, c'est le contraste. Pourquoi la pensée de Suran infiniment pessimiste, paradoxalement, nous fait sourire? C'est le contraste, nous dit Foxar. J'avais jamais pensé à ça, c'est très pertinent. Quand on se sent au fond du trou, on lit Suran, le pessimiste originel, et on se dit, bon, il abuse quand même un petit peu le mec. Et puis il y a Splax again qui dit. Pour continuer sur Suran, ses amis le décrivaient comme une personne très joyeuse qui faisait rire la galerie. Mais quelqu'un dans le chat m'a dit, ça m'a intrigué, ça m'a rappelé des choses. J'ai arrêté de lire Suran quand je me suis penché sur ses idées politiques. C'était quoi ses idées politiques? Ça, j'ai un peu oublié ça par contre. Je veux bien l'info en vrai. Comme je vois qu'il y a des spécialistes de Suran dans le chat. Merci Sacha Purple pour ton message qui me touche, qui est très gentil. Ça fait plaisir en vrai. Bon, j'aime bien ce petit échange sur ce qu'est l'amitié. C'est marrant, on est parti de qu'est-ce que l'amour? Alors prends cette bouteille de lait. Ensuite, on est parti sur Suran, le roumain. Nucci nous dit à propos des idées politiques de Suran, mais tu parles de ses idées politiques de jeunesse. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il les a conservées toute sa vie. Et tu dis, Émile Suran, Émile c'est Emil, s'est engagé dans sa jeunesse auprès du mouvement fasciste roumain de la Garde de Fer, affirmant ainsi son adhésion à l'idéologie nazie. Pourquoi l'intellectuel comme Suran a-t-il succombé à la fascination idéologique avec philosophie? Consacre cette série d'émissions aux dissidents, ces compromissions. C'est un extrait que tu nous as copié-collé, c'est ça? Alors je savais qu'il avait eu des accointances d'extrême droite. Alors je ne je ce que tu sembles m'indiquer, c'est que c'était pendant sa jeunesse. C'est intéressant. Excusez-moi, mais j'aime beaucoup le niveau de ce chat, hein. C'est un article qui parle exclusivement de sa jeunesse. D'accord, ok. Merci, Nucci. J'aime beaucoup le niveau de ce chat, hein. Excusez-moi, hein. Pardon, hein. Mais c'est magnifique, hein. Hein? Bon, en tout cas, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. On est là pour passer un moment ensemble. Je rappelle qu'ici, nous sommes pour la RN. On est très RN ici, on est très réconciliation nationale. Donc je suis très heureux de passer ce moment avec vous ce matin. On va, comme tous les matins, sur Twitch et TikTok, du lundi au vendredi, passer en revue l'actualité, hein, et lire des articles, et puis en parler ensemble. Ah, vous aviez pas la... C'est ma nouvelle blague que j'ai inventée il y a 2, 3 jours, là. Voilà, donc un bon moment, un bon moment. Oui, Gabin, j'ai vu beaucoup de petits articles sur l'augmentation de la taxe foncière, là. J'attends d'en savoir un petit peu plus. Je trouve que je voudrais être sûr qu'elle s'applique. Parce que tu sais, en ce moment, ce qui est voté à l'Assemblée, et sur au plan fiscal, notamment au plan budgétaire, il y a très peu de chances que ça ne s'applique pas, puisqu'il y a peu de chances que ce texte soit voté par l'Assemblée. Alors après, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il y aura une navette parlementaire avec un retour au texte original du gouvernement? Est-ce qu'il y aura du 49-3? A priori, non. Le gouvernement l'a promis. Est-ce que ce sera des ordonnances? Est-ce que ce sera une loi spéciale? Et donc, je mets beaucoup de prudence dans mon analyse de ce qui se passe actuellement à l'Assemblée et de ce qui est voté pourtant par les députés, parce qu'il y a de grandes chances que ceci ne s'applique pas. Et passer des jours, des semaines, le matin avec vous pour vous dire: oh là là, regardez ce qu'ils ont fait, ah, regardez ce qu'ils n'ont pas fait, pour vous dire dans 15 jours, finalement, rien de tout ce dont on a parlé ne va s'appliquer. À un moment, vous allez me dire: mais tu te fous de notre gueule! Donc, vous voyez, je suis un peu prudent avec ça. Voilà, donc, je vous ai un peu raconté certains trucs, mais il y a de fortes chances que tout ça ne s'applique pas. Vous voyez? Voilà. Merci Gabin, merci pour ta question. Mais j'ai vu des choses sur la taxe foncière. Oui, tout à fait. Alors vous êtes très nombreux à me parler de la vidéo de Brut avec le ministre des Armées. Alors je crois comprendre que le ministre des Armées, dans cette vidéo de Brut, puisque vous êtes quelques-uns à m'en parler ce matin, c'est bien parce qu'il y a les actualités que je vous amène, il y a les actualités que vous m'amenez. J'imagine quand je vous lis. Waouh. Waouh. Je reçois un message à l'instant. Sur Twitch, on partage notre quotidien, on se raconte des trucs. Voilà. Vous savez que récemment, certains esprits chagrins ont voulu m'attraper la veste juste pour avoir rappelé un fait historique en matière politique. Et donc, comment dire, des personnes, des individus chagrinés que leurs idées ne soient pas partagées par plus de gens, et notamment par moi, se sont donné pour mission de m'en parler assez vertement, avec vigueur, sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a un peu agité. Quel fait? C'était à propos du Rassemblement national, pas la Réconciliation nationale, l'autre. Voilà. Et je reçois un message d'une amie qui fait du cheval dans la Drôme, qui est une vieille amie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Mais de temps en temps, on s'envoie des messages parce que on parlait d'amitié tout à l'heure. Les gens peuvent être loin de vous, vous pouvez ne pas les avoir vus depuis longtemps, et pourtant il y a ce lien d'amitié qui vous lie parce que vous savez que vous vous êtes reconnus. Et cette amie m'écrit ce matin. On s'envoie un message tous les 10 ans, hein. Écrit, c'est beau, c'est très beau. Je voulais simplement t'exprimer mon soutien absolu et sans retenue et saluer ta franchise quant aux mots que tu as exprimés sur le... Attends, on en reparle encore, désolé. Sur le RN et ses sbires. Je te souhaite autant de courage et de soutien possible pour ne rien lâcher. Je suis heureuse de voir que les langues se délient. Merci à toi. La Drôme, magnifique la Drôme. C'est gentil, ça fait plaisir parce que ça contrebalance ma consommation quotidienne de ce réseau social du diable qui s'appelle X. Je sais plus de quoi on parlait. On était sur une connerie juste avant, puis je suis redevenu sérieux. Ah oui. Si. Parlons pas une connerie du tout. Vous me parliez du ministre Alors, quelqu'un me disait le ministre de la Défense, mais c'est peut-être le chef d'état-major des armées plutôt, dans Brut, hein. Et je crois comprendre en fait qu'il alerte sur la menace de guerre en fait, hein, la menace de guerre qui pourrait venir de l'Est, qui pourrait venir de la Russie, l'Europe, voire la France, un jour touchée par un conflit, hein. Voilà, bon, c'est ce que vous me confirmez. Discours alarmiste. Alors, j'ai pas vu cette ITV, mais effectivement, en revanche, je consomme quasiment tous les jours des articles sur le sujet. De temps en temps, je vous en lis, et on va être sans doute amené à en reparler de certains qui estiment qu'il y a une véritable menace militaire qui pèse sur notre pays et que du coup, il faut se préparer, il faut se réarmer. Voilà. Je crois qu'il a utilisé des mots assez forts. C'est pour ça que vous m'en parlez ce matin, qu'il a dit qu'il fallait être prêt à sacrifier des vies pour défendre la nation, quoi. Donc, mais je suis le sujet. On en parlera. Vous savez quoi? Je suis sûr qu'on en parlera demain. Il a dit, deux points ouvrez les guillemets, me dit Grudu, la Russie se prépare à une confrontation avec nos pays à l'horizon 2030. Ouais, je suis sûr qu'on en parlera demain. Ok. Je vais essayer de vous trouver des beaux articles là-dessus. Ok. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence cette revue de presse? Et notamment un. Putain, je vous ai même pas mis la petite flèche sur le bonjour. Oh, engueulez-moi quand je. Regardez. Ah bah si, elle y est. Ah bah, elle n'y est pas là. Oh bah, il marche pas ce truc. Là. Ah, y a pas la flèche. Mais je l'ai sur mon sommaire sur le PC. Et je l'ai pas sur le. Je l'ai activé, puis désactivé. Pardon, on est sur le sommaire de Twitch. Vous l'avez la flèche là? Vous la voyez la flèche là? Elle bouge ou pas chez vous? Elle bouge, elle bouge? Elle bouge? Là, ok. Et là, elle est toujours. Elle est sur le bonjour là? Elle est sur le bonjour? Est-ce qu'elle est sur le bonjour? Excusez-moi. Elle est sur le bonjour? Elle est sur le bonjour. Ok. Et si je ferme là? Et moi je la vois plus là. Elle y est plus? Elle y est toujours? Incroyable. Bon, au moment où je ferme, il n'y a plus. Oh, de la merde. Ok. Bon, du coup, je vais le laisser afficher. Ok. Bon, les amis, c'est parti. On se met sur le sommaire. Fais Alt F4 sur OBS. Je vais t'enfiler du Alt F4, moi. Salut Xani, je suis en pleine forme. Allez, c'est parti. On va. Je vais vous enlever là cette jolie image, ce joli visuel d'Alderiat qui vient d'Image dans Simplay. Pop, je vous mets les beaux gosses de TikTok et de Twitch. Les journaux! Voilà, on va parler de plein de choses vraiment intéressantes, notamment la lutte contre le narcotrafic en France. C'est l'une de mes marottes. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ok, et vous êtes là. Ok. Ah, c'est marrant ça. Ok, voilà. Ok? Oui, j'ai remis les algos. Mais un nouvel article, Sugar. Voilà. Allez, c'est parti. Les amis, d'abord un petit sommaire. Hein. Le sommaire, pour ceux qui ne connaissent pas la revue de presse, c'est quelques minutes dans lesquelles je vous donne l'essentiel. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures ou 3 heures avec moi parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'en ils ont peuvent plus ma tête, eh ben, ils ont l'essentiel. Hein. On n'est pas obligé de consommer 2-3 heures de Samuel Etienne tous les jours. Donc, je vous mets la petite flèche également TikTok et je vous mets un TC à 33 minutes. Sur le sommaire Twitch. C'est parti. De quoi on parle ce matin? De quoi on parle ce matin? Bah de ça. Voilà. Et pardon, mais enfin, Enfin, on en parle. Je trouve que le traitement médiatique du narcotrafic en France laissait un peu à désirer. Nous ne parlions pas assez de ce sujet. Nous ne parlions pas assez de ce sujet. Merci Auruc, merci Pandalf, merci, merci pour les soutiens. Voilà. Et à la faveur, hélas, d'un meurtre monstrueux, eh bien on en parle plus. Ce matin, il y a un gros dossier dans Le Parisien, et d'autres journaux en parlent également, pour revenir sur la mort de Mehdi Kessassi. Mehdi Kessassi, c'est un jeune homme de 20 ans qui a été assassiné à Marseille en plein jour. Alors qu'il préparait de quoi était fait son futur, il voulait rentrer à l'école de police. Pourquoi, a priori, c'est la piste principale des enquêteurs, parce que son grand frère, qui est un militant politique écologiste, luttait justement contre le narcotrafic à Marseille. Voilà. Donc un meurtre pour impressionner, pour faire peur à son grand frère. Voilà, c'est la piste des enquêteurs. Donc il y a un gros dossier ce matin dans Le Parisien, parce que Le Parisien a bossé. Et Le Parisien s'est mis sur la piste du commanditaire et a obtenu des informations. Donc exclusif, donc a priori c'est des infos du Parisien, et c'est vrai que je ne les ai trouvées que dans Le Parisien ce matin. Les enquêteurs soupçonnent Amine O, l'un des leaders de l'organisation DZ Mafia, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui règne sur le trafic de drogue à Marseille, d'avoir organisé la fusillade depuis sa cellule. Salut Xani, bonne journée. Voilà. Donc on a un dossier important sur un sujet essentiel qui se demande si effectivement ce n'est pas l'ombre de la DZ Mafia qui plane au-dessus de ce meurtre. Parce que meurtre, ça on est sûr. Maintenant les commanditaires, c'est ce que les enquêteurs cherchent. Voilà. Donc on va se pencher là-dessus. On a aussi un éclairage dans Le Parisien sur le fameux grand frère, hein, Amine Kessassi, au nom des frères. Et puis, l'avis de policiers, de magistrats, d'élus locaux sur la lutte contre le narcotrafic, avec cette citation, vous le voyez ici, tout cela va mal finir. Voilà. Donc, un gros dossier dans Le Parisien, on prendra... Qu'est-ce que tu reproches au traitement médiatique de l'histoire ? D'être insuffisant, Jolioc. Ces dernières années, ces dernières décennies, on n'a pas parlé assez du trafic de drogue en France, voilà. Qui est en train de faire énormément de mal à notre pays. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience. On a une tribune d'Amine Kessassi dans Le Monde. Certains me disaient qu'il était l'invité du JT de 20h de France 2. Ben, il parle dans Le Monde aussi. Il dit au Monde « Non, je ne me tairai pas. Je dirai et répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. » Voilà. Et on a un édito dans Le Monde, hein, qui nous dit que ce crime, cet assassinat, c'est un crime politique. Alors là, j'ai très envie de lire cet édito, puisque, alors c'est un crime, oui, sur fond de trafic de drogue, oui, mais en quoi ce crime serait politique ? Je trouve ça très intéressant. Donc c'est le premier sujet qu'on traitera, ensemble. Merci Ashkerov. Et merci pour ton message qui fait bien plaisir. Voilà. Ensuite, on parlera de ce sujet que j'ai évoqué rapidement dans la revue de presse, qui était un peu courte hier soir, parce que c'était juste avant l'émission MVP, du nouveau combat du président Macron. Alors le président Macron, il n'est pas très très populaire. Mais je pense qu'à un moment, il faut se dire que malgré l'impopularité du bonhomme, eh bien, on doit peut-être s'intéresser à ses initiatives, parce que c'est pas parce que le bonhomme, lui, est impopulaire que ce qu'il dénonce est forcément faux. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être la distinction entre le personnage et le discours. Et là, par exemple, on a une initiative du chef de l'État qui est de lutter contre ce qu'il appelle le Far West des réseaux sociaux, notamment les algorithmes qui provoquent beaucoup de dégâts dans notre société. Voilà. Se disant désormais convaincu de la nocivité des écrans pour les jeunes et le débat public, le chef de l'État a enfourché la cause de la régulation, voire de l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans lors d'un débat avec les lecteurs de La Voix du Nord, journal régional, mercredi. Donc on lira un petit peu ce qu'il y a dans cet article. Voilà. Je vais très vite, c'est le sommaire. Hein. Alors ça, c'est... Comment je fonctionne sur l'actualité ? Souvent, je vois une actualité qui pop. Et puis, je vous en parle pas forcément, parce que j'attends d'autres articles. Je me dis, ah oui, ok, mais j'aimerais avoir un article plus complet. Voilà. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'entends parler de cette bulle boursière autour de l'IA, voilà, des valeurs de l'IA. Voilà. Alors, ça fait plusieurs semaines que je lis des articles. Est-ce que cette bulle financière peut éclater, hein, avec une chute vertigineuse de ces titres, entraînant avec elle des places boursières mondiales, ce qui pourrait avoir un impact au final sur l'économie réelle? C'est la question que pose Le Figaro ce matin. Est-ce que cette bulle financière peut éclater? Je crois qu'il y a un célèbre financier, ou je ne connais pas trop, qui avait prédit la crise des subprimes, et qui lui parie aujourd'hui, je ne sais pas si on retrouvera ça dans le dossier du Figaro, sur effectivement l'éclatement de cette bulle. Voilà, il a investi sur la chute de l'IA. Voilà, vous en avez entendu parler. On va en parler. Il s'appelle Michael Burry. Merci Asdré. Vous êtes fort. Hein. Vous êtes très fort. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Hein. Quel chat de qualité, hein? Quel chat de qualité? Michael Burry. Il est mentionné dans l'article? Ok. Il a investi plus d'1 milliard? Ok. Le mec de Big Short? J'ai pas la ref. Et vous êtes plusieurs à m'en parler. Ok. Mais certains l'accusent justement de manipuler le marché en provoquant lui-même une instabilité. C'est très intéressant. On lira ce dossier dans le Figaro. Je vois que ça vous parle. Ok. Ah, je ne suis pas qu'un oiseau de mauvais augure. Parfois dans l'actualité, je vous rapporte des bonnes nouvelles. Parce que les médias, c'est un miroir déformant qui vous fait croire que rien ne va, jamais, que le monde va exploser, mourir, s'enflammer, qu'il nous reste 2 heures à vivre. Voilà, c'est normal, on vous rapporte les mauvaises nouvelles parce qu'on vous explique ce qui ne va pas bien, quoi. Mais de temps en temps, je vous trouve des bonnes nouvelles, parce qu'en fait, il y en a plein. Voilà. Mais par exemple, là, le bio. Bah, le bio va mieux en France. Voilà. Une double page dans la Croix. Après l'orage inflationniste, la hausse des prix. L'horizon se dégage pour le bio. Malmené par la crise inflationniste, l'agriculture biologique n'a pas sombré en France. 3 ans plus tard, la reprise est là. Les ventes repartent à la hausse, mesdames et messieurs. Hein, sous vos applaudissements. Grâce à la fidélité des consommateurs, la réduction de l'écart de prix avec le conventionnel. Hein, la filière espère que la crise est derrière elle. Mesdames et messieurs, une bonne nouvelle dans l'actualité, on en parlera ce matin. J'adore ton sweat, Samu. Moi aussi, je l'aime bien. Oh, petit chou. Oh, petit chou. J'avais pas vu à quel point cette photo était belle. Mais qui. Regardez ce regard. Innocent, limpide, plein de curiosité. Pop, pop, petit pruneau, va. Il est beau. Il est magnifique. Évidemment, je vous connais les pessimistes, les adeptes de Cioran, là. Hein? Alors, c'est parti. Renifleur de paix. Imagia. Fabricadon. C'est de l'IA. Bulbu Bonito. IA. No Way. 100% IA. DMT XCS. C'est le nouveau bébé IA. Ok, on vous voit. Hein? IA 100%. Alors évidemment, on est journaliste, on est curieux, on zoome, on cherche, voilà. Et là, on voit le nom de l'auteur de la photo, en bas à gauche, dans la croix, Catherine Delahaye. Voilà. Connaissant les valeurs de la croix, je serais surpris en fait que la croix utilise l'IA. Si jamais c'est le cas, je mange mon chapeau que je n'ai pas. Voilà. Donc a priori, c'est une photo d'une photographe d'un vrai bébé. Vous savez ce que vous êtes? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes d'immondes pessimistes. Vous êtes d'immondes pessimistes. Vous voyez? Hein? Vous reprochez aux médias sans arrêt de nous rappeler uniquement les mauvaises nouvelles. Et voilà, je vous montre le plus beau des bébés. Et la première réaction de certains, je vous ai vu. Je vous ai vu. C'est c'est mien. Voilà. Exactement, et comme le dit Célébif, Sioran vous valide de là-haut. Hein, immense pessimiste que vous êtes. Voilà, il est beau ce bébé. Il est très beau ce bébé. Moi je sais parce que mes enfants, qui sont des vrais enfants, étaient encore plus beaux que ça. Comme tous les enfants de tous les parents sont toujours les plus beaux d'ailleurs. Voilà. Non, en vrai, il est chaud. Donc, pardon pour cette parenthèse. Comment la baisse des naissances bouleverse la France? Alors ça, la crise de la natalité en France, hein, je vous ai lu des dizaines d'articles là-dessus. Donc, au début, j'étais un peu hypé par le dossier, en le lisant pas tant que ça, en fait, avec la croix qui dit « Oh là là, oui, mais moins de naissances, c'est moins de croissance. Oh là là! Ah bah ça va sûrement motiver les Français à faire des enfants, hein? Ah oui, dis donc, les gars, faut faire des enfants. Pourquoi? Ah bah parce que sinon la croissance va baisser. Ah bah ça, c'est motivant. Viens chérie, on va ken. Voilà, non, 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 oublie les préservatifs, la pilule, on va faire des enfants. Parce que la croix nous a dit que c'était bon pour la croissance. Ah bah oui, c'est sûr, ça va nous motiver. Donc ça, on s'en fout, hein. Le désir d'enfant, c'est un désir éminemment personnel, c'est un projet familial, c'est le fruit de l'amour. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils ont envie de faire des enfants, ils font des enfants. Ils n'ont pas envie de faire des enfants, ils font pas des enfants. Voilà. Mais c'est sûrement pas ce genre d'argument en disant « Ah oui, mais attention, la croissance, et même le financement de notre modèle social, non. Non, non. » Alors du coup, j'ai lu ça avec un intérêt un petit peu distancié, notamment à un moment, j'ai lu, oui, mais vous vous rendez compte, les conséquences sur les écoles, il va falloir fermer des classes. Bah oui, s'il y a moins d'enfants, il y aura peut-être moins de classes. Ou alors, oui, mais alors, l'économie des jouets. Ah bah oui, moins d'enfants, moins de jouets. Et l'économie de l'alimentation infantile. Oui, moins d'enfants, on va vendre moins de lait. Oui. Mais franchement, je suis pas sûr que ça nous motive. En revanche, j'ai trouvé un article intéressant. Voilà. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi on fait moins d'enfants. Phénomène éminemment complexe, puisque là, on est dans l'intime. C'est l'une des choses les plus personnelles qu'on puisse faire ici-bas. C'est d'avoir un enfant, ou de ne pas avoir un enfant d'ailleurs. Hein? Voilà. Mais certains commencent à s'interroger, et là j'ai trouvé un article intéressant de la présidente de la mission d'information de l'Assemblée sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France, donc elle a un peu bossé, et elle se penche sur ce sujet, et elle dit il y a notamment des raisons socio-économiques. Hein, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, mais c'est trop cher, trop cher. Hein. Et c'est vrai, il y a de vrais éléments factuels sur le pouvoir d'achat, sur le niveau de revenu des classes moyennes, sur l'accès au logement qui est un scandale en France. Hein, trop peu de logements et trop cher. Et ça m'a intéressé. Donc on lira ça ensemble ce matin. Voilà. Voilà. Pas mal, hein, le petit sommaire ce matin, vous en pensez quoi? Mets-moi une part fiscale par tête et je fais 12 mômes. Bon, ouais, encore faut-il payer des impôts. Hein. Encore faut-il payer des impôts. Hein. Encore faut-il les payer des impôts. Pas mal, hein? Voilà, c'est le sommaire de ce matin, ça. Hein, quoi? C'est mignon comme message. Là, pas désolé Samuel, mais rien à voir, mais j'ai besoin d'un conseil SVP. Je veux offrir des tours de circuit et un baptême de pilotage à mon copain, c'est trop mignon. Mais je ne sais pas quelle voiture choisir. Lamborghini, Ferrari ou Porsche, j'y connais rien. J'y connais rien non plus, mais je laisse le chat te répondre. Les gars, Lamborghini, Ferrari ou Porsche? Moi, je dirais que ça joue entre Ferrari ou Porsche, personnellement. Très chic Lamborghini, mais si tu veux vraiment du sport, je pense qu'il faut plutôt aller sur Ferrari. Voilà. Et si est-ce que ton ami, ton copain aime un peu la rigueur allemande, quelque chose de. Je pense que là, je pense que la Porsche, la Porsche aura peut-être plus de rigueur sur la route, peut-être, je dirais. Peut-être plus accessible. Après, ça dépend du modèle. En termes de gestion de la puissance qu'une Ferrari, peut-être. Oui, il faut demander à Sylvain, bien sûr. Sylvain Lévy, bien sûr. Ça, dans le chat, ça vote quoi? Il y a S. Klerner qui dit plutôt Citroën Saxo. Donc demande aux gars du circuit, ils sont pas une Citroën Saxo. Alors je suis pas un spécialiste, mais d'après une partie du chat, la Citroën Saxo, c'est bien. Ok. Ça vote beaucoup Porsche. Hein. Qu'est-ce que tu m'as dit moi, MMG? Je sais que c'est un sujet que t'aimes bien. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit toi? Putain, je t'ai banni. Je voulais lire ton historique, je t'ai banni, je suis con. Oh, putain, je suis désolé. J'ai pas cliqué où il fallait. Ah bah t'as rien dit. Pardon pour le ban. Alpine, ça envoie. J'ai beaucoup d'amitié pour. Les constructeurs automobiles français, Alpine formidable, mais enfin, on vient de parler de Ferrari, de Porsche. Bon, quand même, je veux dire, moi aussi je suis patriote, mais faut pas déconner quand même, peut-être, non? Dis donc, le Q13. Hein? Ah, MMG, Alpine c'est cool, mais mieux vaut Porsche ou Ferrari en vrai. Non, mais MMG, on te demande. Dis donc, MMG, ce passionné de course auto là. Tu vois pas bosser un peu? Je l'engueule, j'aime bien l'engueuler, MMG. La dame, elle voudrait savoir ce qu'elle doit choisir entre Lambo, Ferrari et Porsche. Et toi, ta réponse, c'est quoi? C'est, faut choisir entre Ferrari et Porsche. Tu te fous de notre gueule ou quoi? On veut un conseil, bordel. C'est fou, ça sert à quoi d'être spécialiste, putain? J'adore m'énerver pour rien. Un conseil, on veut. Allez, à un moment, il faut porter ses couilles. Oh, c'était quoi cette expression? Salut Hugo Porsche, au perchoir. Alors, mais putain, un conseil! Moi, je dirais Porsche. Plus accessible, je dirais. Non, mais c'est pour un tour de circuit. Y a T-Foxy qui dit: rapport qualité-prix, entretien va chez Porsche. C'est pour un tour de circuit. Ah, pour un cours de circuit. Un tour de circuit, peut-être Ferrari, en vrai. Bon, allez, ça faut bosser là. Oh, je suis parti sur les bagnoles là. Allez, go. Mesdames et messieurs, on va commencer la revue de presse. Après 50 minutes d'intro et de sommaire, ce qui est plutôt pas mal. 50 minutes. Ok. J'aime bien ce petit débat sur les bagnoles qu'on vient de lancer là. TikTok, je vous mets la petite flèche. Parce que je vous aime. Quelles que soient vos sensibilités, vos opinions, vos valeurs, on est là pour échanger, on est là pour parler. Bienvenue dans la revue de presse, dans la matinée, Étienne, tous les matins, du lundi au vendredi. Voilà, on parle de l'actualité ensemble, on discute ensemble, on est bien là au chaud, alors que le froid s'est installé dehors. Vous m'écoutez sur Twitch, sur TikTok. Sur Minitel pour les plus anciens. Vous m'écoutez aussi en podcast audio. La revue de presse est postée tous les jours vers 15-16 h par l'ami Vincent sur toutes les plateformes de podcast audio, les Apple Podcasts, les Spotify, les Deezer, que sais-je. Merci d'être là. Allons-y. Les journaux consacrent beaucoup d'articles ce matin à la mort de Mehdi Kessassi, qui est un jeune homme qui a été assassiné à Marseille sur fond de narcotrafic. Alors, on en a déjà parlé, hein. Ce n'est pas des articles sur sa mort. Sa mort, hélas, elle est là, on l'a annoncé il y a plusieurs jours. C'est des articles sur l'enquête. Et on a un énorme dossier qui semble passionnant dans Le Parisien, hein, qui a des infos exclusives. Le Parisien a un peu bossé et parle d'une piste en particulier qui nous emmène sur la piste de mafia. Sur la DZ Mafia. Vous le voyez avec moi, meurtre de Mehdi Kessassi, c'est la une du journal ce matin sur la piste du commanditaire. Merci Alex Clout. Exclusif, donc c'est une info Le Parisien. Les enquêteurs soupçonnent Amine O, l'un des leaders de l'organisation DZ Mafia, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui règne sur le trafic de drogue à Marseille, d'avoir organisé la fusillade depuis sa cellule. Édito avant les faits. Édito de Damien Delceni, qui est le chef du service police-justice du Parisien. La guerre est donc déclarée. En assassinant Mehdi Kessassi en plein jour et en pleine rue, les narcos marseillais ont voulu frapper son frère Amine, son grand frère, qui s'active publiquement et politiquement depuis plusieurs mois contre la mainmise du trafic de drogue sur la ville. Les tueurs à gages ne frappent plus seulement leurs rivaux au bas des immeubles. Au fond des caves ou en tirant sur leurs voitures, ils ciblent maintenant des acteurs publics, des civils, comme on dit dans le langage militaire. Comment leur répondre? Sur le terrain judiciaire, beaucoup a été fait, beaucoup restera toujours à faire. Mais maintenant que le conflit s'étend et qu'il tuera peut-être un jour un magistrat, un policier, un élu ou un journaliste, c'est bien toute la société qui doit réagir et qui doit résister. Voilà. Et cette phrase, je vais la relire parce qu'elle me semble essentielle, c'est toute la société aujourd'hui qui doit réagir, qui doit résister. Samedi, donc dans 2 jours, une marche blanche est organisée à Marseille, épicentre du chaos, et qui doit donc devenir aussi l'épicentre de la riposte. C'est Amine, frère endeuillé, lui-même menacé sous protection, qui appelle à cette mobilisation. Il ne doit pas être laissé seul dans ce combat devenu celui de tous les citoyens. Dans une guerre, il y a toujours des collabos qui frayent plus ou moins ouvertement avec l'ennemi. Les millions de consommateurs français de cannabis participent sans contestation possible au business sanglant des narcos et à leur enrichissement mortifère. Dans une guerre, il y a ceux les plus nombreux qui subissent en silence, par manque de courage et pour leur survie aussi, à eux, à nous de rejoindre les résistants, pas assez nombreux pour stopper cette gangrène qui pourrit et ampute des villes, des quartiers, des villes et presque un pays tout entier. Ça, c'est l'édito, ce n'est que l'opinion d'un journaliste sur le sujet, quoi. Maintenant, on va dire les faits. On va dire les faits. L'ombre de la DZ Mafia. L'enquête sur Solar Alex. On a trouvé. Il y a Solar Alex dans le chat TikTok qui est en train de nous parler de vaccins. On est en train de parler de lutte contre le narcotrafic et il est en train de spammer vous avez été vacciné. Solar Alex, tu voudrais pas te concentrer un petit peu là? Tu t'es mis au fond de la classe près du radiateur, tu es en train de faire une sieste et t'entends, tu dis une dinguerie, tu veux pas faire un effort? C'est fou ça. On parle de la mort d'un homme, quoi. L'enquête sur l'exécution du frère du militant Amine Kessassi à Marseille s'oriente vers un contrat commandité par un détenu extrêmement dangereux, Amine O. L'ombre de la DZ Mafia, titre Le Parisien. Il est le prisonnier le plus sensible de France et pourtant peu connaissent sa véritable identité et son parcours. La simple évocation de ses pseudonymes, Mamine ou encore Jalisco et Nemesio, en référence à un cartel mexicain, suffit à inspirer la terreur tant on lui prête la capacité de pouvoir faire exécuter n'importe qui depuis sa cellule. À 31 ans, Amine O, né à Marseille, est soupçonné d'être le chef opérationnel de la DZ Mafia en France. Quelqu'un me demandait, mais c'est quoi la DZ Mafia? J'espère que l'article va le dire, quoi. Un gang de narcotrafiquants, merci Noirmbir, historiquement phocéens, qui par l'extrême violence tente de devenir une organisation criminelle mafieuse transnationale. Voilà, ce qu'est la DZ Mafia pour ceux qui demandaient. Ce mardi, donc il y a 2 jours, le détenu a été discrètement transféré sous escorte renforcée des gendarmes du GIGN de la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse dans l'Ain au nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée de Condé-sur-Sarthe, la deuxième prison ultra sécurisée imaginée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Ironie de la situation, jusqu'à ces derniers jours de détention dans un établissement classique, et malgré ses nombreux transferts et placements à l'isolement strict ces dernières années, parce que le gars est en prison, Amine O aura été soupçonné d'avoir commandité des assassinats, un rôle décisionnaire qui lui serait dévolu au sein de la DZ Mafia. La dernière affaire en date, le meurtre de Mehdi Kessassi, constitue un nouveau palier franchi dans l'horreur et un véritable défi lancé à l'autorité de l'État. Selon nos informations, le Parisien a bossé. Selon nos informations, Mamine apparaît comme le suspect principal dans l'enquête sur le meurtre choquant de Mehdi Kessassi, 20 ans. Le Parisien rappelle, le 13 novembre, le frère du militant écologiste engagé contre le narcotrafic Amine Kessassi est abattu par un commando de tueurs à moto en pleine journée, à la vue de tous, je crois que ça s'est passé devant une pharmacie, dans le 4e arrondissement de Paris. Très vite, les autorités dénoncent un crime inédit, un assassinat d'avertissement. Mehdi Kessassi aurait, conditionnel, enquête, aurait été exécuté pour envoyer un message à son frère aîné, devenu trop gênant avec son activisme anti-narco. Une victime immaculée, le jeune homme est inconnu de la justice, pas de casier, il est même en train de préparer le concours de gardien de la paix. Le jeune homme assassiné voulait rentrer dans la police. L'affaire génère depuis une certaine psychose à Marseille. Plusieurs journalistes écrivant sur le narcotrafic préfèrent éviter de signer de leur nom par crainte de représailles. Vous avez des journalistes en France aujourd'hui, notamment dans la région, qui ne signent plus de leur nom les articles sur le narcotrafic par peur de représailles. Magistrats, policiers, politiques redoutent d'être à leur tour ciblés. Cette hypothèse d'une victime sacrifiée au nom d'une violence aveugle n'a pas été avancée au hasard. Elle résulte d'investigations très discrètes. Selon nos informations, une première enquête judiciaire concernant un projet criminel visant Amine Kessassi avait été ouverte déjà cet été, après la transmission à la justice d'un renseignement inquiétant décrit comme très fiable. D'après ce renseignement, Amine O, a placé un contrat d'assassinat sur la tête du militant écologiste depuis la prison de Bourg-en-Bresse. Le haut cadre de la DZ Mafia, cité nommément dans le renseignement, lui reprochait son engagement contre le narcotrafic. À l'époque, le jeune homme de 22 ans prépare un livre qui sera intitulé « Marseille, essuie tes larmes, vivre et mourir en terre de narcotrafic ». Au regard de la dangerosité extrême d'Amine O, le parquet phocéen ouvre aussitôt une procédure pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. Le 18 août, ça s'est passé cet été, des policiers de la brigade de répression du banditisme marseillais se déplacent jusqu'au local associatif d'Amine Kessassi pour lui conseiller de tirer le rideau et de quitter Marseille sur le champ. On explique qu'il est menacé de mort, mais sans préciser par qui. Une évaluation de la menace est discrètement réalisée par l'unité de coordination de lutte antiterroriste chargée d'accorder des protections policières, et Amine Kessassi est protégé et classé au niveau C2, le deuxième degré le plus élevé en matière de menace. Voilà. Et depuis, je crois que ce monsieur est protégé par la police. On lui adjoint des policiers spécialistes de la protection rapprochée, se déplaçant en véhicule blindé pour l'escorter dans ses activités. Le jeune homme est également exfiltré en dehors du département. L'engagement militant d'Amine Kessassi ne serait pas, à en croire l'information transmise à la justice, l'unique raison du courroux d'Amine O. Ce dernier a un passif sanglant avec la famille Kessassi et il ferait de la mort de l'activiste une affaire personnelle de vengeance. Le détenu est en effet mis en examen pour assassinat en bande organisée et placé en détention provisoire depuis 2021 dans une affaire de triple meurtre particulièrement barbare. Parmi les trois victimes, Brahim Shahan, 22 ans, le demi-frère d'Amine Kessassi. Tous deux ont la même mère. Le 29 décembre 2020, donc ce jeune homme, Brahim Shahan, est retrouvé mort dans son véhicule en flammes, abandonné sur une autoroute près de Marseille, une balle dans le crâne. Le cadavre d'un autre jeune du même âge gît à ses côtés dans la voiture. Quelques jours plus tard, un troisième corps est retrouvé dans le coffre d'une Clio incendiée. Dans une cité marseillaise, le jeune homme a été découpé et démembré à l'aide d'une hache ou d'une disqueuse. Ces trois jeunes, tous amis, vous avez la photo du fameux Amine O ici, aurait été assassiné le même jour lors d'un guet-apens dans une ruelle de Châteauneuf-les-Martigues. À l'époque, le demi-frère d'Amine Kessassi et ses compagnons sont décrits comme des figures montantes dans le narcotrafic de la cité de la Paternelle. Voilà. Brahim Shahan serait le seul membre de la famille Kessassi à tremper dans ces affaires délictuelles, interlopes. Son ascension et celle de ses amis sont très mal vues par le narcotrafiquant Karim Arat, puissante figure du banditisme qui aura alors commandité leur exécution et délégué la besogne à son cercle de confiance. Parmi les suspects d'exécution du triple meurtre, un certain Amine O, tiens donc. Excusez-moi, je suis en train de lire un mail vite fait. Oh oh! Oh oh! Ok, très bien, super. Un certain Amine O, qui n'est pas encore devenu Mamine de la DZ Mafia, il est décrit comme un protégé de Karim Arat et son fidèle homme de main. Son ADN est retrouvé sur la scène de crime. Les enquêteurs découvrent aussi dans la voiture dans laquelle il est interpellé une clé menant au garage où la troisième victime a été démembrée. L'histoire est folle. Hein. L'histoire est folle. Mis en examen, Amine O dément toute implication dans ces assassinats sanglants. Il reste présumé innocent, l'instruction suit toujours son cours. Dans le cadre de l'affaire, Amine Kessassi s'est constitué partie civile pour connaître la vérité sur la mort de son demi-frère. Depuis son incarcération pour le triple meurtre, Amine O a connu une ascension fulgurante dans le narco-banditisme qui l'a fait changer de dimension. Donc le gars a monté dans la hiérarchie du narcotrafic depuis sa cellule. au point d'être considéré aujourd'hui comme le vrai numéro 1 de la DZ Mafia, gang criminel apparu dans le débat public quelques mois après son arrestation. Il serait, quel est son rôle dans cette organisation criminelle ? Merci encore Noir Ambir. Notamment chargé des narcomicides, des homicides sur fond de narcotrafic, de l'organisation des contrats pour le compte de l'organisation criminelle, délégués à de jeunes tueurs à gages recrutés sur les réseaux sociaux contre quelques centaines d'euros. Phénomène dont on a déjà parlé ici. Amine O apparaît au détour des nombreuses enquêtes sur la vague inédite d'assassinats commandités au cours de l'année 2023 dans le cadre d'un conflit avec un autre gang rival qui s'appelle Yoda. Il est d'ailleurs régulièrement extrait de sa cellule pour être mis en examen dans de nouvelles procédures liées à des exactions mortelles ou tentatives d'assassinat pilotées depuis les prisons. Le dossier est costaud. Malgré ces changements fréquents de lieu de détention, ces déplacements à l'isolement, il serait toujours parvenu à obtenir des téléphones portables clandestins pour organiser ses activités criminelles. Saïko écrit « Ces gens-là nuisent tellement à la communauté, c'est tellement triste. » Oui. Oui. Mamine aurait-il réussi ces derniers jours depuis la prison de Bourg-en-Bresse à piloter le commando qui a fauché Mehdi Kessassi ? C'est désormais la piste privilégiée par les enquêteurs et les magistrats, celle d'un crime émanant de la très haute criminalité organisée au nom de la DZ Mafia. Raison pour laquelle le parquet de Marseille s'est dessaisi de l'enquête au profit de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Si la piste privilégiée est celle d'une équipe de tueurs envoyés tuer le frère d'Amine Kessassi pour lui lancer un avertissement et le réduire au silence, il n'est pas exclu que les exécutants aient pu aussi se tromper de cible et confondre physiquement le militant et la victime. Les enquêteurs se demandent si en fait les tueurs ne visaient pas le grand frère, qui est un militant politique. Quelqu'un me demande qui c'est qui, Mehdi Kessassi. C'est un militant politique écologiste qui se bat contre le narcotrafic à Marseille. Les enquêteurs se demandent si les tueurs n'ont pas confondu le grand frère militant et le petit frère. Non, je ne me tairai pas. Je dirai et répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. Je dirai la violence du narcotrafic a promis Amine Kessassi dans une tribune publiée par Le Monde aujourd'hui, qu'on lira, hier, mais qu'on lira tout à l'heure. Jusqu'ici sans protection policière, les proches du militant, sa mère, ses demi-frères, ses demi-sœurs, ont à leur tour été pris en charge par les services spécialisés avec une menace évaluée au troisième niveau sur une échelle de 5. Voilà. C'est fou. Vous êtes plusieurs à me demander, quelqu'un est dans le chat a dit, mais c'est qui Amine Kessassi ? Ben justement, on a son portrait dans le Parisien, là, on va se pencher un petit peu sur lui. Alors non, Gredu, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas eu vent de telle menace. Je n'ai pas d'amis journalistes qui reçoivent, je ne connais pas d'amis journalistes qui reçoivent des menaces de narcotrafiquants. Je ne travaille moi-même pas sur ce sujet. Les seules menaces que je reçois dans mes DM ou par mail au quotidien, ce sont des menaces de gens qui votent très à droite et qui me disent attention hein, attention attention hein. Non, c'est pas grand chose, tu vois. Roupit s'en sonnait. Je vous lis. Imitation de Fred Testo. J'ai pas fait exprès, mais il y a un petit truc, ouais. Alors, qui est Amine Kessassi ? Je crois qu'on a un petit encadrement parisien ici. Bah Spinoza, je trouve ta question pertinente, mais j'ai pas la réponse. Spinoza nous dit, je vais poser une question en code peut-être, mais clairement, ils arrivent toujours à obtenir des portables. Pourquoi ne pas plutôt installer des brouilleurs ? Ça empêcherait les communications, non ? J'avoue que ta question est de bon sens, j'ai pas la réponse. Lisons. Amine Kessassi. Non, je me tairai pas. Au lendemain de l'enterrement de son petit frère Mehdi, 20 ans, abattu le 13 novembre, Amine Kessassi réaffirme son combat dans le narcotrafic dans une tribune du Monde, que je vous ai mis de côté aussi. Honnêtement, je n'étais pas certaine qu'il réagirait ainsi. Même s'il l'avait abandonné, je l'aurais suivi et compris. C'est tellement morbide ce qu'il vit, mais cette réaction prouve encore tout le courage, sa détermination. Salut, une militante associative marseillaise qui s'appelle Katia Yacoubi. Il nous fait passer ce message: tant que je vis, je lutte. Rappelons que cet homme, aujourd'hui, il est sous protection policière. Alors, sur les brouilleurs, vous êtes plusieurs à me dire, oui, mais le problème, c'est que ça, tu peux pas brouiller juste un téléphone ou une cellule, et ça brouillerait sans doute aussi les téléphones des gardiens, voire les voisins et tout. Donc, c'est ce que vous me dites, ok. Cette assistante sociale, cette militante associative, donc, est particulièrement bien placée pour apprécier l'investissement sans faille de ce jeune homme de 22 ans. Donc, Amine Kessassi, il a 22 ans. L'an dernier, elle était sa suppléante. Lorsqu'ils ont échoué à 800 voix près, parce qu'il s'est présenté à une élection, contre une candidate de quel parti? Ah, du Rassemblement National, dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, sous l'étiquette Union de la gauche. Voilà. Un succès qui aurait fait à l'époque de lui le plus jeune député de France. Donc le garçon a été candidat aux législatives, donc, et a échoué à 800 voix près pour devenir le plus jeune député de France. Donc il y a un engagement associatif, un engagement politique. Né d'une mère agent d'entretien et d'un père mécanicien, tous deux d'origine algérienne, Amine Kessassi grandit dans le quartier de Frey-Vallon, au nord de Marseille. Scolarisé dans un établissement du centre-ville, ce militant né enchaîne les postes de délégué de classe, c'est mignon. Il mène ses premiers combats au lycée pour défendre deux camarades sans papier menacés d'expulsion. En juillet 2020, il fonde l'association Conscience, au départ centrée sur l'écologie et la citoyenneté. 5 mois plus tard, son demi-frère aîné Brahim, qui n'avait pas su échapper aux griffes du trafic de drogue, est exécuté, son corps carbonisé sera retrouvé dans le coffre d'une voiture, je vous le racontais tout à l'heure. Salut maman, dédicace. L'engagement d'Amine prend une autre orientation et son association fédère les familles endeuillées par les assassinats ciblés. J'aurais adoré ne pas parler de drogue ou d'homicide, mais la réalité est celle-ci. La priorité aujourd'hui, c'est de sauver des vies humaines. On en a marre de ramasser des corps dans les rues et d'essuyer le sang, nous confiait-il en avril 2023. 2 ans et demi, la mort vient de le rattraper. Salut Morgane de toi. Constatant l'échec de la seule politique répressive, parce que la lutte contre le narcotrafic, on ne l'a pas inventée aujourd'hui en France. Hein. Et on doit constater qu'aujourd'hui, jusqu'ici, ça n'a pas marché. Amine Kessassi prône la légalisation de la vente du cannabis. Ce qui est aussi la proposition que je fais. L'une des propositions de mon programme présidentiel de 2027. Mais ces réflexions sont loin de se limiter aux seules conséquences du trafic. Celui qui, en 2021, a interpellé Emmanuel Macron lors de la présentation de son plan Marseille en grand, appelle de ses voeux le rétablissement de la police de proximité et milite pour une meilleure offre de transport et une nouvelle carte scolaire dans la cité phocéenne. Son association s'occupe aussi de l'accès au logement et à l'emploi dans les quartiers avec une approche globale à l'atteinte sociale prononcée. Bon, c'est vraiment un militant, un jeune militant qui est très, très engagé. Sa trajectoire le pousse dans l'univers politique, après ce militantisme associatif, quoi. Sous la bannière des écologistes, voilà. L'an dernier, il figure en 10e position de la liste menée par Marie Toussaint pour les élections européennes, puis il enchaîne avec les législatives, après avec la dissolution surprise de l'Assemblée, il a failli se faire élire, vous avez vu. Et donc sa suppléante, son ancienne suppléante, Katia Yacoubi, parle de lui et dit notamment, après le drame de la semaine dernière, l'assassinat de son petit frère, je veux qu'il reste en vie, mon Amine. Il a consacré sa vie à la cause, mais il ne faudrait pas non plus qu'il s'oublie. Je parle parce que je ne peux que lutter si je ne veux pas mourir, dit Kassassi dans la tribune du Monde, qu'on lira tout à l'heure. Je parle parce que je sais que le silence est l'abri de nos ennemis. Cette phrase, elle est incroyable. Je parle. Aujourd'hui, sa vie est menacée, hein, vous l'avez bien compris. Je parle parce que je sais que le silence est l'abri de nos ennemis. Alors, pour le coup, moi, je voudrais saluer le Parisien parce qu'on a un dossier qui est assez complexe et que je trouve assez bien fait, quand même, assez clair. Je sais pas pourquoi ma flèche n'arrête pas de s'en aller sur mon sommaire là. Mon petit renifleur de paille, il y a un truc bizarre sur notre petit logiciel. Il y a un truc qui a changé depuis hier Et la flèche n'arrête pas de s'enlever toute seule. Samuel, tu réponds quoi à ceux qui disent que la légalisation empire les choses et qu'ils se redirigeront vers la drogue dure? Quand je serai... Pardon. Si je serai... si je suis élu président en 2027, l'une de mes premières mesures, c'est de demander, en fait, une énorme étude, une espèce de bilan de toutes les légalisations qui ont été décidées dans le monde entier, dans plusieurs pays, pour voir ce qu'a provoqué la légalisation. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup d'experts sur la question qui pensent que la légalisation pourrait être un début de réponse à la lutte contre le trafic de drogue, du cannabis, hein, pour dire les choses. Et pas besoin d'études, regarde comment ça se passe en Espagne, exemple parfait. C'est ce qu'on appelle une étude Bulbu Bonito. Il y a Bulbu Bonito qui dit bah, tu prends ta voiture, tu vas en Espagne, tu passes la frontière, tu reviens, puis c'est fait. Waouh! Non, on va faire ça de façon un peu plus rigoureuse. On va aller voir ce qui s'est passé en Espagne, on va voir ce qui s'est passé chez nos voisins allemands, on va voir ce qui s'est passé aussi dans certains États américains. Voilà, parce qu'en fait, l'Espagne n'est pas la France, l'Allemagne n'est pas la France, les États-Unis ne sont pas la France. On va réfléchir, on va réunir des experts et on va voir concrètement qu'est-ce qu'on fait. Légalisation? Dépénalisation? Voilà. Comment on légalise? Est-ce que c'est une régie d'État? Est-ce qu'on donne un monopole d'État pour vendre du cannabis? De façon encadrée? Est-ce qu'on fait autrement? Est-ce qu'on laisse les acteurs privés en vendre, les entreprises déclarées? Voilà. Donc en fait, non, il ne suffit pas d'aller en Espagne en week-end pour résoudre le problème. Il faut réfléchir un petit peu. Et puis, à partir de là, on invente un modèle français autour de ça. Moi, je pense qu'en fait, il faut effectivement une légalisation totalement encadrée par l'État. Avec un produit qui serait désormais en fait taxé, puisque en fait il faut que ça sorte de l'économie souterraine, de la même que la vente d'alcool est tolérée en France, encadrée et taxée, eh bien là, je pense qu'on peut faire la même chose avec le cannabis, hein? Et avec des taxes et avec le fruit de ces taxes, il y a moyen de rapporter un peu d'argent à l'État qui irait financer justement la lutte contre le trafic de drogue. Voilà. Avec plus de moyens pour la justice, plus de moyens pour la police. En partie financé par cet argent qui viendrait des taxes sur le cannabis. Voilà. Ça, c'est une idée de base. Mais évidemment, ça reste à approfondir. Mais je pense qu'il y a urgence à travailler sur le sujet. On en reparlera puisqu'on fera notre, on co-construira notre programme présidentiel ensemble quand le temps sera venu de lancer cette campagne. Portrait d'Amine Kessassi au nom des frères, dans Le Parisien. Très beau discours, je viens de finir mes études en addictologie, me dit Lolo 42, et les médecins vont dans ce sens-là. Bonjour à tous, Samuel, si tu légalises le cannabis, que fais-tu sur l'impact sur la santé que ce produit fait sur les personnes? Personnellement, je ne suis pas pour légaliser des produits qui sont mauvais pour la santé. J'entends une fuse B, mais dans ce cas-là, si on va au bout de ton raisonnement, il faut interdire demain, pas après-demain, la vente d'alcool en France. Interdire la vente de tabac en France. Interdire la vente de sucre en France. Aussi. Pourquoi pas d'ailleurs. Tu vois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis encore une fois, je préfère que cette vente de ce produit. Putain, la flèche qui arrête pas de se barrer, j'en ai marre de ce truc qui marche pas là. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vraiment cassé. En fait, il faut que ma souris reste sur le sommaire. Waouh! Et donc, il vaut mieux que ce produit qui est consommé ben, soit encadré, limité, taxé par l'État plutôt que il nourrisse une économie. Informel et illégal par ailleurs quoi. Et en plus, un produit dont la qualité sera contrôlée en plus, puisque ça passera par l'État. Mais chacun y va de son petit avis. Moi, je pense qu'il faut faire, c'est une grande étude internationale sur les initiatives qui ont été menées dans certains pays pour voir ce qu'ils ont fait, parce que tous les pays ne se sont pas emparés de la chose de la même manière, et voir les résultats et essayer d'imaginer une solution française à ce sujet. Merci de la chat. Vous lire. Si on légalise le trafic, continuera toujours avec la coke, l'héro, la méta, etc. Exactement, c'est ce que je veux faire. Mobiliser des moyens financiers pour donner plus de moyens à la justice et à la police pour lutter contre ce trafic de drogue. C'est exactement ça. Amine Kessassi. Donc on a lu son portrait et on a. Alors j'ai plein d'articles ce matin sur le sujet, mais j'ai envie de passer un petit peu de temps dessus parce que c'est important. Merci beaucoup Aubin 866 pour ton soutien. Pardon, l'alerte sub, elle est. Je vais la passer dessus parce qu'elle est derrière le sommaire. Je vais la repasser devant, pardon. Elle est où l'alerte? Elle est où l'alerte sub? Elle est où? Elle est là. Je l'ai retrouvée. Hop, regardez comme c'est beau. Voilà. On est en train de travailler sur un sommaire. Un beau sommaire qui fonctionne. Voilà. Et déjà, c'est mieux. Ok. Donc, on a un article là sur tout ça va mal finir. Ouais, mais ça devient compliqué, renifleur de paix, là, si vous faire tout ça, là. C'est pas. C'est pas actualiser à côté du bouton interagir. Ça devient compliqué, hein? Soit un truc un peu plus, tu vois. Du coup, je l'ai perdu là. Ah putain, le temps que je passe là-dessus, putain. Tout ça va mal finir. T'inquiète, t'inquiète, Renifleur, t'inquiète. Qu'est-ce que dit cet article? Donc là, je ne vais pas vous rappeler les faits, vous les connaissez. Et on a des témoignages manifestement de magistrats, peut-être de policiers sur le sujet. C'est ça qui s'ajoute dans cet article. L'onde de choc de ce meurtre d'intimidation. S'il s'agit bien d'un meurtre d'intimidation, hein, on va rester. On va rester prudent, hein, parce qu'une enquête est en cours, je le rappelle. L'onde de choc, qualifiée de crime d'avertissement par le ministre de l'Intérieur, fait bouger les lignes bien au-delà du seul territoire marseillais. Partout s'est alourdi la chape de plomb que les narcotrafiquants font peser sur les quartiers qu'ils contrôlent. Fait nouveau, le risque pèse aussi sur les activistes, les policiers, les magistrats, gardiens de prison ou élus locaux en première ligne dans la guerre contre le trafic. Sans céder à la panique, ce haut gradé de la police judiciaire ne cache pas qu'une digue s'est rompue avec cet assassinat ciblé contre le proche d'un militant politique. Parmi nous, certains regardent aujourd'hui dans le rétro et on sent chez les magistrats qui traitent des stupes une vraie appréhension. Tout cela va mal finir, dit ce haut gradé de la PJ. Un jour, un journaliste, un magistrat ou un policier va être enlevé ou tué. La crainte d'une dérive mafieuse à l'italienne est dans toutes les têtes. Des précédents terrifiants sont survenus ces dernières années dans d'autres pays européens, notamment les Pays-Bas, où un journaliste et un avocat ont été abattus en 2021 et 2019 par des hommes de faim de la puissante Mocro-Mafia. La vague d'attaques contre des prisons et le personnel de l'administration pénitentiaire au printemps dernier par un mystérieux collectif défense des droits des prisonniers français liés en partie au crime organisé, notamment la DZ Mafia, a aussi sonné comme une première provocation lancée directement contre l'état de droit. Au même moment, les pouvoirs publics tentaient de mettre un coup aux activités des barons de la dope en créant pour eux des quartiers spécifiques, ultra sécurisés, dont on n'a pas beaucoup parlé ici. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir parlé plus de ces prisons. Chez les robes noires, on connaît depuis longtemps l'insupportable pression que peuvent faire subir ces clients qui croient sous prétexte qu'ils paient qu'on doit être à leur service, résume un avocat parisien chevronné. Cependant, la France reste au premier chef confrontée à de sanglantes guerres de territoire entre réseaux criminels et pas pour l'instant à des assassinats ciblés. Attention à ne pas céder à la psychose, d'autant que c'est ce que recherchent les narcotrafiquants, prévient un policier. S'ils constatent avec d'autres la violence grandissante de ces groupes criminels qui n'hésitent pas à recourir à la torture ou à des enlèvements de leurs cibles, on n'a pas de signaux faibles sur d'éventuelles agressions pour l'instant sur des policiers ou des magistrats. Le pire est peut-être à venir, mais il n'est pas encore là, quoi. Les batailles à coups de rafales d'armes automatiques qui endeuillent nombre de halls d'immeubles, y compris dans des villes moyennes comme Clermont-Ferrand, comme Valence, laissent à terre des leaders locaux, leaders, dealers, des dizaines de petites mains du trafic et d'exécutants ubérisés, mais aussi des victimes collatérales coupables du seul fait de vivre dans le quartier. Rappelons-nous de Soukaina, 24 ans, tuée à Marseille d'une balle de Kalachnikov alors qu'elle révisait ses leçons dans sa chambre, vous vous souvenez de cette histoire, le 10 septembre 2023. Je vais un peu plus loin, je ne vous lis pas tout l'article. L'argent du trafic rapporte tant qu'il génère un sentiment de toute puissance chez ces gens qui n'hésitent plus à se placer en concurrence avec les autorités publiques. Ils veulent définir les règles, analyse le maire de Charleville-Mézières. Son bras de fer avec les trafiquants locaux pour le contrôle de la place de la Houillère a commencé l'été dernier quand a été incendié le poteau de vidéosurveillance donnant sur le point de deal. La municipalité a répliqué en faisant murer le café soupçonné d'être la devanture du petit trafic local. Pendant l'opération, les policiers municipaux et le maire sur place ont essuyé une dizaine de jets de mortier dans une ambiance électrique. S'ils ne baissent pas les armes, promettant de transformer bientôt le café en une maison France Service dotée d'une antenne de police municipale, le maire s'avoue préoccupé par cette volonté conquérante des trafiquants face à des moyens de l'État qu'il juge insuffisants. Je vais allumer le chauffage parce que je suis en train de m'enrhumer. Ouais. La météo est bizarre. Hein. Je vais mettre mon petit chauffage d'appoint là. Chez vous aussi, Ikaï? Normalement, je compte sur mon PC, la carte graphique pour me réchauffer, mais là, c'est pas assez. Ikaï, hein. La parole à Amin Kessassi, donc ce jeune homme, donc ce militant qui est aujourd'hui placé sous protection policière et qui vient de perdre son petit frère. Hein. C'est... Putain, mais pourquoi la flèche saute toujours ? C'est une tribune dans Le Monde. Non, je ne me tairai pas, je dirai, je répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. Hier, on va lire cette tribune. Je ne vais pas en enlever un seul mot, par respect pour cette personne. Hier, j'ai enterré mon frère. Mon cœur n'est que blessure. La douleur m'éparpille, mais elle n'effrite pas ma lucidité. Nous ne sommes dupes de rien. J'entends les belles paroles et discours soudains volontaires. Je vois les postures de ceux qui prennent des mines affligées et demain continueront leur route comme si de rien n'était. Parce que pour eux, la vie des autres n'est rien. Et que seul compte le manège de leur propre vanité. Je vois, sans les lire, la foule des commentaires de tout un chacun qui croit savoir mais ne sait rien. C'est hyper bien écrit. Parce que sa mort ne doit pas être recouverte par les sables de l'indifférence et de l'oubli. Mille fois, j'écrirai son nom et je ferai face à ses assassins. Je serai le gardien de sa mémoire. Non, je ne me tairai pas. Je dirai et répéterai que Mehdi est mort pour rien. Je dirai la violence du narcotrafic, son emprise. Je dirai la lâcheté des commanditaires des crimes. Je dirai la dérive folle de ceux qui exécutent des contrats, brisent des vies et souillent leur âme à jamais. Je dirai pour trouer le silence, comme eux trouent les corps de nos proches, je dirai les carences de l'État, les failles de la République, les territoires abandonnés et les populations oblitérées. Un jour du mois d'août, la police m'a demandé de quitter ma ville et de fermer les locaux de l'association Conscience parce que j'étais ciblé. Sans m'en dire plus, les semaines ont passé sans m'en dire plus. Devant mon assistance à savoir et parce que les menaces ne se tarissaient pas, on m'a accordé une protection policière, mais sans l'étendre au mien. Je crois que maintenant, ses proches sont également protégés. Pourtant, qui ignorait que ma famille avait déjà payé un tribut de sang? Comment ne pas savoir que ma famille pouvait être touchée? Alors maintenant, j'entends les discours, mais qui rendra ses enfants assassinés à ma mère? Le premier tombé, Brahim, repose à Alger. Le second, Mehdi, avait 20 ans. Il a été touché en plein thorax par ses assassins. Il n'était coupable que d'être mon frère. Qui me rendra nos jeux, ses moqueries, sa tendresse, son soutien? On me parle de crime d'avertissement, mais un crime n'est jamais un avertissement. Le sang versé l'est pour toujours et a plongé ma famille dans l'infini de la mort. On nous frappe pour nous briser, pour nous domestiquer, pour nous asservir, voilà ce que font les trafiquants. Ils tentent d'annihiler toute résistance, de briser toute volonté, de tuer dans l'œuf tout embryon de révolte pour étendre leur pouvoir sur nos vies. Face à un tel ennemi, l'État doit prendre la mesure de ce qu'il se passe et comprendre qu'une lutte à mort est engagée. Il est temps d'agir, par exemple, de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise, de doter les enquêteurs et les forces de police des moyens dont ils ont besoin, de renforcer et de soutenir réellement les familles de victimes de narcotrafic. Nous comptons nos morts, mais que fait l'État? Hier, j'ai enterré mon frère et aujourd'hui, je parle. Je parle et je ne me tairai pas parce que ma mère m'a appris à ne pas baisser la tête. Je parle depuis mon deuil, depuis l'épicentre de ma souffrance, pour demander justice pour les miens, mais aussi pour toutes les autres victimes. Je parle parce que je ne peux que lutter si je ne veux pas mourir. Je parle parce que je sais que le silence est l'abri de nos ennemis. Je parle parce que je veux que 1000 voix s'épanouissent, que notre révolte face au narcotrafic soit durable et collective. Levons-nous ensemble. Courage, on ne peut pas tuer tout un peuple. C'est un sacré texte, hein. C'est un sacré texte, hein. C'est fou, hein. Bah, Amine Kessassi. Un texte magique, lui dit le petit Camus, personne ne se lève. Bah, l'objectif du texte, c'est peut-être de nous faire se lever, justement. On va terminer cette grosse page consacrée au meurtre de Mehdi Kessassi et ses conséquences et les questions qu'il pose par un édito, donc un article du Monde où le journal donne son avis sur le sujet et parle d'un crime politique. Ouverte pour assassinat en bande organisée, l'enquête sur la mort de Mehdi Kessassi tué par balle à Marseille précisera l'effrayante mécanique qui aboutit à l'élimination d'un jeune homme de 20 ans, frère du militant écologiste Amine Kessassi, engagé dans la lutte contre le narco-banditisme. Mais en qualifiant les faits, mardi, jour des obsèques du jeune homme, de crime d'intimidation, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a d'ores et déjà accrédité le scénario d'un nouveau degré atteint dans l'emprise des narcotrafiquants. Ces derniers ne se contenteraient plus en France de régler leurs comptes, mais auraient commencé à s'attaquer à ceux qui dénoncent leurs méfaits ou luttent contre leur emprise. Certes, Mehdi Kessassi, merci Renoir, merci Van Cleef, merci Aubin, n'est pas la première victime collatérale du narcotrafic. Que l'on pense à Sokaina, 24 ans, tué d'une balle de la Kalachnikov en pleine tête le 10 septembre 2023 à Marseille alors qu'il révisait ses cours de droit dans sa chambre. Un meurtre pour lequel un garçon qui n'avait pas 16 ans au moment des faits attend d'être jugé. Ou à Nessim Ramdan, chauffeur de VTC marseillais, abattu par un ado. Je me souviens de cette histoire de 14 ans qui s'apprêtait à exécuter un contrat pour une organisation criminelle. Ça s'est passé en France, ça aussi. Mais le lien apparent de l'assassinat de Mehdi Kessassi avec le militantisme anti-narco de son frère donne à ce drame les allures d'un crime politique en forme de message d'avertissement. Dans ce contexte qui nourrit la peur, non seulement à Marseille, mais dans de nombreuses villes et quartiers gangrenés par le trafic de drogue, la réunion de ministres mardi convoquée par le président Macron paraît à la fois indispensable et de nature symbolique. Pour accompagner la montée en puissance de la loi sur le narcotrafic qui a été promulguée en juin. Ce texte prévoit quoi ? La création, le 1er janvier 2026, d'un parquet national anticriminalité organisé, une répression accrue et l'isolement des narcotrafiquants, merci Morgane, des narcotrafiquants les plus dangereux, pardon, dans les quartiers de haute sécurité pénitentiaire. Mais le président, qui contre l'avis de nombreux acteurs du monde sécuritaire a laissé supprimer le poste spécifique de préfet de police de Marseille en mars, rechigne à élaborer la stratégie de fond multifactorielle qu'exige l'ampleur de la menace. Lutter contre l'emprise du narcotrafic qui fait vivre 200 000 personnes en France dégage un chiffre d'affaires annuel estimé autour de 5,5 milliards d'euros. Approvisionne en cocaïne 1,1 million d'usagers en France, supposerait la mise en œuvre, outre l'indispensable répression, d'une active politique sanitaire, sociale et scolaire contre la corruption, d'une meilleure prise en compte par la diplomatie du poids de la drogue dans des pays comme le Maroc et du rôle de Dubaï dans cette économie mafieuse. Une lutte à mort est engagée, alerte Amine Kessassi dans la tribune publiée dans Le Monde. L'avertissement doit être entendu. Outre celles et ceux qui tombent sous les balles, l'état de droit, la paix civile, la démocratie sont dans le viseur des narcos. La mobilisation doit être à la hauteur de leur folle entreprise. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un truc ce matin ? Quand vous voyez la qualité du travail, là par exemple ce matin du Parisien avec son enquête, ou du Monde qui donne la parole à Amine Kessassi, cet édito, on est quand même sur un travail journalistique qui est plutôt pas mal, quoi. Si on fait une petite parenthèse par rapport à notre sujet, on se rend compte quand même que il y a médias et médias, hein, et que dans leur travail, vous avez parfois des médias qui font, comment dire, on est sur quasiment une mission de service public là. Quand on voit la qualité de l'édito du Monde là, quand on voit la qualité de l'enquête du Parisien, quand on voit les questions soulevées là, les médias, parfois on englobe les médias dans une grande poche, on dit les journalistes, les médias. La qualité du travail n'est pas toujours la même. Je trouve que ce matin, ces journaux-là ont quand même bien bossé sur le sujet. Allez, maintenant on va parler des réseaux sociaux, deuxième sujet. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur le premier, mais il me semble essentiel. Et vous savez quoi, je pense qu'on va en reparler. Allez, deuxième sujet de ce matin, 1h38, donc on a passé 48 minutes sur le sujet du narcotrafic, ça me semble très bien. Hop. Et TikTok, je vous mets la petite flèche aussi au niveau du sommaire. sur ce deuxième sujet d'actualité de ce matin, on va parler des réseaux sociaux, des algorithmes et d'un début de prise de conscience politique sur le sujet, notamment dans la bouche du président Macron. Attends, je sais ce qu'on va faire. On va faire... voilà. Comme ça. Tiens, c'est bizarre. Ah oui, je sais ce que c'est. C'est autre chose, ça. Voilà. Voilà. Joli. Très bien. Voilà. Bon, alors, je sais de l'impopularité du président Macron. L'homme peut être impopulaire et peut-être, malgré tout, attirer notre attention sur quelque chose d'intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à Arras, Emmanuel Macron s'affiche contre le Far West des réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Se disant désormais convaincu de la nocivité des écrans pour les jeunes et pour le débat public, qui est un sujet essentiel, le chef de l'État a enfourché la cause de la régulation, voire de l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans, lors d'un débat avec des lecteurs de La Voix du Nord, qui est un excellent quotidien régional, c'était mercredi. Au-dessus du bourbier budgétaire, mais si loin de la scène nationale après une intense activité diplomatique, Emmanuel Macron a poursuivi mercredi son cycle de discussions sur le thème de la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. C'est le nom officiel de ces discussions. À Arras, face aux lecteurs de La Voix du Nord, le chef de l'État a torpillé le Far West des géants du numérique. Bon, il n'a pas tort là-dessus. Qu'il veut opposer la régulation des plateformes, l'éducation des plus jeunes et la formation à l'esprit critique des citoyens. En mal de réformes apportées sur le plan national, vous savez qu'il est un petit peu en difficulté sur la scène politique française, il fait des efforts du numérique son nouveau cheval de bataille. Après une première étape à Toulouse, devant les lecteurs de la Dépêche du Midi, un rendez-vous par semaine avec la presse régionale est prévu jusqu'à Noël, avant des annonces promises début 2026. Ouvrant plusieurs tiroirs, les dangers des réseaux sociaux, la désinformation, le complotisme, les ingérences étrangères, Macron veut alerter contre la dégénérescence démocratique et susciter, dixit, l'un de ses conseillers, un éveil des consciences. On s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux, ouais, dont le modèle économique n'aime pas de nous informer, mais de vendre de la publicité. Ouais. On a délégué la vie de nos enfants, de nos adolescents, de notre démocratie à ces systèmes. Peut-être un peu. Soucieux de sonner le tocsin, de sonner l'alarme, quoi. Macron a lancé sa croisade en grande pompe le 28 octobre. Grande pompe, on l'a vu, on est au moins sur le 44-45. Recevant à l'Élysée 200 invités, chercheurs, directeurs de collège, responsables associatifs, neuropsychologues, élus ou youtubeurs. Voilà. Je me demande quels youtubeurs sont partis à l'Elysée. Marqué par les témoignages de pédiatres sur les effets des réseaux sur les plus jeunes, il dénonce le modèle des plateformes qui cherche à créer l'excitation maximale de manière à générer le maximum de trafic pour maximiser leur page de pub. Oui, ce modèle économique, vous le connaissez. Changement de pied. Pour ceux qui... Celui qui ouvrait en 2020 un compte TikTok pour parler aux jeunes bousculés par le Covid, pour interrogation. Le 1er juillet, il recevait encore à l'Élysée l'influenceuse Miel Habitbol. Alors que je ne connais pas, mais on ne peut pas connaître tous les influenceurs. Porte-parole de la souffrance des jeunes sur Instagram. C'est un dilemme permanent, conseil d'un proche, il faut réguler, mais si on veut s'adresser à tous, il faut percer les bulles cognitives. L'engrenage des réseaux sociaux, la rumeur... moi aussi j'ai été victime, a-t-il confié à ses interlocuteurs, relayé en France par des complotistes et par la sphère trumpiste aux États-Unis. La fake news selon laquelle son épouse serait un homme l'a affecté. Le déclic peut-être d'une crise de conscience, d'une prise de conscience, c'est un truc qui vient de chez lui. Bon, ça c'est un peu du blabla ça, sur les motivations personnelles. Ce qui nous intéresse c'est sur les mesures et sur le constat. Pour l'instant on n'apprend pas grand chose. Pour l'instant, l'article nous dit « Bon, le président Macron a pris conscience que les réseaux sociaux, ça posait quand même des questions sur la protection des plus jeunes, sur le fonctionnement de la démocratie. » Bon, ok, c'est bien. Hein, c'est bien, mais bon, on n'avance pas beaucoup là pour l'instant. La guerre en Ukraine et la réaction de Trump ont marqué un tournant dans le champ informationnel. On ne peut plus se balader à poil sur un champ de mine, dit un conseiller. Ok, d'accord. Sur X, les conseillers élyséens voient défiler en cascade les contenus pro-Trump. Macron lui-même, en praticien des réseaux, voit la déformation de l'espace public. Ok. Hein, les algorithmes remontant des contenus d'extrême droite, tiens donc, et les troubles de l'attention du comportement observés par les spécialistes chez les plus jeunes. Sur le sujet, il s'est nourri de lectures et de rencontres. Bon, formidable, il s'est documenté. Ok, super. Il a parlé des intellectuels. Ok, super. Pardon, je suis un petit peu pour l'instant critique parce que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Là, on est en train de nous dire que le président Macron s'est intéressé au sujet. Waouh! Enfin, pardon, je ne veux pas, pas faire de populisme de bas étage, mais pour l'instant, il n'y a rien de fou, quoi. Après avoir lancé plusieurs commissions sur le complotisme en 2021 ou l'exposition des écrans en 2024, Macron connaît désormais la boîte à outils à déployer. Ok. De la levée de l'anonymat, il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, il y a du pseudonymat, peu importe, à la transparence des algorithmes, oui, en passant par le retrait des faux comptes, oui. À 16 mois de la présidentielle, il aimerait surtout atterrir sur l'instauration d'une majorité numérique à 15 ans, l'interdiction, je pense, des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Je pense que c'est une idée intéressante, en vrai. S'il pousse toujours une coalition d'États européens à légiférer sur le sujet, Macron déplore la lenteur de l'agenda de la Commission européenne. Il soutient la proposition de loi de la députée Laure Miller, déposée mardi, qui vise à interdire les réseaux au moins de 15 ans. La France a raison de vouloir avancer, mais elle ne peut pas le faire seule, prévient de son côté l'eurodéputé Renew Stéphane Yoncourtin. Internet n'a pas de frontières. Les géants du numérique attendent une fracturation entre États. Y aura-t-il matière à référendum? Tout est ouvert, répond un proche. À en croire un ministre qui en avait parlé avec lui, l'idée trotte dans sa tête depuis un moment. Ok. Je suis un peu déçu par l'article. Bah, c'est pas l'article qui est décevant. C'est de se rendre compte que au plus haut de l'État, la prise de conscience, elle est quand même fraîche et que on est en mode ah, il faudrait faire des trucs, quoi. Mais c'est pas foufou pour l'instant. Ok. Alors que les problèmes sont là, quoi. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus croustillant, quoi, un petit peu des mesures. Des... Bon, peut-être que je suis un petit peu impatient là-dessus. Bon, je suis pas le seul à être déçu, manifestement. Ça s'endort, moi je suis assez d'accord avec toi pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que moi aussi je dois réfléchir sur le sujet, mais quand tu dis que la fin de l'anonymat sur Internet, ou du moi je préfère dire le pseudonymat, c'est pas forcément une bonne idée, parce que ce serait une façon de s'attaquer à la liberté d'expression, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas sûr que ce soit ça le sujet. Il y a des gens qui ont... Attends, mais il est baisé mon sommaire, putain. Pardon, au TikTok, je n'ai pas vu. Ouais, c'est mieux là. Il y a des gens qui se servent aussi du pseudonymat sur Internet pour dire qu'ils vont pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur entreprise. Voilà. Le pseudonymat, il a aussi des vertus. Il permet aussi de faciliter la prise de parole, quoi. Voilà. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la solution, ça. De toute façon, c'est pour ça que je ne parle pas d'anonymat. Quand les lanceurs d'alerte, quand la justice veut retrouver en France, par exemple, l'identité d'un gars qui s'exprime avec un pseudo sur Internet, hein, après une plainte, bon bah la justice retrouve la personne. Et après, on retrouve la personne au tribunal qui dit « Ah oui, mais... Non, mais je pensais pas que... » C'est tous les mêmes. Hein. « Non, mais je pensais pas qu'en fait les gens allaient lire mon message. » Ah, mais je pensais pas, moi, que la personne dont je disais que je voulais arracher la tête de la maman. Je savais pas qu'elle allait lire ce message, moi, en fait. Ah non, mais je m'excuse, en fait. Bon, c'était tous les mêmes, hein. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle pas d'anonymat. La justice, si elle veut retrouver la personne derrière le message débile sur Internet, elle va le retrouver, quoi. Donc, je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut remettre en cause, en fait. Effectivement. Mais il y a peut-être d'autres mesures à prendre pour protéger notamment les plus sensibles, les plus fragiles. Si l'Élysée t'invite, tu y vas? Non. Non, je. Non, je. En fait, je crois qu'il faut rester à sa place. Et il y a une, il y a de telles. Il y a de telles interrogations dans notre pays aujourd'hui sur la collusion réelle ou supposée entre, par exemple, les médias et les politiques, entre les journalistes et le pouvoir, voire entre les créateurs de contenu pour certains et le pouvoir, que si l'Élysée, ce qui m'est jamais arrivé, hein, je vois pas pourquoi ça m'arriverait, m'invitait pour venir discuter d'un truc ou d'un autre, l'Élysée ou quelconque pouvoir politique, je refuserais en fait. Pour ne pas entretenir cette confusion. Voilà. Si un jour je vais à l'Élysée, c'est parce que je vais prendre le bureau, quoi. Je m'installe, quoi. Mais pas pour aller bouffer gratuitement en donnant mes deux, trois pauvres idées claquées au sol à des gars, quoi. Ou alors si, pour prendre les mesures du bureau, ouais, peut-être. Pour voir un petit, voir un peu comment, où on installe le setup, quoi. La scène, imagine. Le mec qui rêve, jamais on va m'inviter dans le bureau du président, mais imaginons demain je suis invité dans le bureau du président et je sors un mètre. Je sors un mètre. Et je commence à prendre des mesures, tu vois. Tu vois. Le bureau, là, très bien, mais il faudrait prendre un bureau qui puisse un petit peu monter et descendre, là, tu vois. La chaise, là, ouais. Alors moi j'ai des petites chaises. Petites chaises e-sport là qui vont bien là. Dites-moi là, excusez-moi, je vois pas du tout de. Pour le RJ45. Où est-ce qu'on se plug par contre? Je vois pas de. Vois, vous avez la fibre. C'est stable. C'est sta en termes de co, c'est stable. Non, sinon, je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Le gars, le fou du bus, quoi. Donc non, 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 non. D'ailleurs, il y a quelque temps, on m'a proposé de participer à une commission qui était une commission publique sur un sujet de réflexion sur qui était assez intéressant. Putain, la flèche qui se barre tout le temps, je peux plus. Mais en fait, j'ai refusé de participer à cette commission pour ça. Je pense que là, je voulais pas qu'il y ait des interrogations sur ouais, de collusion, quoi. Bon, trêve de rêve. Maintenant, ah! La bulle de l'IA. La bulle de l'IA. Est-ce qu'il y a une bulle de l'IA? Un. Deux. S'il y a une bulle de l'IA, et qu'est-ce qu'elle va exploser? The bubble. On est sur 1h52. Ok. C'est la une du Figaro ce matin. Sommaire. Hop. IA, bulle financière pour interrogation. Voilà, comme le dit Max Larsouille, joli pseudo, plop la bulle ou pas? Ok. Moi, j'ai fait des bulles dans mon bain sans IA hier soir, me disait-elle. Je ne veux pas entendre parler de vos bulles dans le bain. Volontaire ou moins volontaire, ça n'est pas le sujet. C'est l'ONU Figaro, par contre. Intelligence artificielle, est-ce que la bulle financière peut éclater? Les valorisations spectaculaires et inédites des champions de l'IA à Wall Street? L'endettement colossal et la concentration des capitaux sur ce secteur font redouter un retournement brutal. Jusqu'où la frénésie va-t-elle aller? Nvidia, le géant américain producteur des puces électroniques indispensables au déploiement de l'IA, est le symbole titanesque de la fièvre financière du moment. On en a parlé ici. La valeur de cette société à Wall Street a dépassé les 5000 milliards de dollars. Du jamais vu. L'IA aspire l'essentiel des capitaux sur les marchés américains, tire la croissance des États-Unis au point que depuis quelques mois se multiplient les voix des cassantes, telles Albert Edwards de la Société Générale, qui avait prédit au tournant du siècle l'éclatement de la bulle Internet. L'accumulation spectaculaire de capitaux qui parient sur ces entreprises, qui parfois ne font pas encore un dollar de profit, et s'endettent pourtant dans des proportions monstrueuses, va-t-elle brutalement s'interrompre et, c'est la question qui est posée ici, provoquer une crise financière. La question est au cœur des préoccupations de Wall Street et au-delà des marchés du monde entier. Voilà. Gros dossier dans le Figaro, c'est la première fois qu'on traite vraiment de cette bulle ici. C'est intéressant. Pourquoi les marchés s'alarment d'un risque d'éclatement de la bulle de l'IA ? La valorisation des secteurs de la tech et des programmes gigantesques d'investissement désormais en partie financés par de la dette suscite de plus en plus d'inquiétudes. Les vétérans sont sur le pont. Il y a Albert Edwards, le stratégiste star de la Société Générale, qui a tout vu sur les marchés depuis 40 ans, et notamment l'éclatement de la bulle Internet au début du siècle. Le parallèle avec ce qui se produit aujourd'hui pour l'IA, lui semble évident, il est sûr que ça va finir dans les larmes. Mesdames et messieurs, hein ? Il y a aussi Michael Burry, le gérant héros du livre et du film de Big Short. Vous m'en parliez tout à l'heure, moi j'ai pas la ref. Rendu célèbre pour avoir fait fortune en pressentant la crise des subprimes de 2008. Le revoilà, le cassant en annonçant la catastrophe. Au début du mois, il a jeté un froid sur les marchés en révélant qu'il jouait à la baisse deux valeurs emblématiques de l'IA, Palantir et Nvidia. Ces oiseaux de mauvais augure, parmi d'autres, ne croient pas aux folles promesses de l'IA générative. Ou plus exactement, ils ne pensent pas qu'elle mérite les valorisations stratosphériques que les investisseurs lui accordent, ni les investissements fous qui lui sont annoncés. Le gars ne dit pas l'IA ça marche pas ou ça n'a pas marché. Le mec dit les valorisations des entreprises sont trop importantes. Ok, Fatou. Comme le dit Goodies avec beaucoup de sagesse, le problème en bourse, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir raison au bon moment. Exactement. Dans toutes les bulles, il y a toujours un récit très plausible et très convaincant, rappelle Albert Edwards. Depuis le début du mois, les investisseurs prêtent une oreille plus attentive aux contre-récits. Après 6 mois de trajectoire rectiligne et haussière, les valeurs de la tech associées à l'IA décrochent. L'humeur est passée de l'euphorie sans retenue à la franche fébrilité. Mercredi, après plusieurs séances dans le rouge, les marchés retenaient leur souffle dans l'attente de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, le spécialiste des puces avancées les plus prisées de l'acteur de l'IA, devenu l'entreprise la plus chère du monde. Ça donnait quoi les résultats de Nvidia d'ailleurs ? Son parcours boursier symbolise la folle épopée de l'IA. Il y a 2 ans, le groupe valait 1 000 milliards de dollars. Il a franchi le cap des 4 000 début juillet, celui des 5 000 milliards de dollars le 30 octobre. Résultat de folie ? Résultat de fou ? Ok. Les craintes qui se sont soudainement éveillées sont à la hauteur de l'enjeu financier qui est monstrueux. 3 ans après le lancement par OpenAI de ChatGPT, les valorisations de tout ce qui touche le près ou de loin à l'IA générative ont explosé. Sur les marchés cotés, les valeurs technologiques pèsent à elles seules 35%. Je viens de cracher sur mon micro, je suis vraiment dégueulasse. Excusez-moi. 35% de l'indice S&P 500 censé être représentatif de toute l'économie. Une concentration au même niveau qu'à l'époque de la bulle Internet. Un petit peu ASMR. Avant son éclatement. Une simple correction de marché de 20% impliquerait une évaporation de 4 500 milliards de dollars. Sur les marchés non cotés, les startups, si on peut les appeler ainsi, valent des fortunes. Voilà. XAI, celle d'Elon Musk, est selon le Wall Street Journal en pourparlers pour lever 15 milliards de dollars sur le capital sur la base d'une valorisation de 230 milliards. OpenAI atteint 500 milliards. Oui, ils disent IA générative, je pense, Blaise Capa, oui. L'exubérance s'est incontestablement empérée à la fois du secteur et des investisseurs. À leur plus haut du mois dernier, les actions Nvidia s'échangeaient à un prix de 35 fois ses bénéfices, celle de Racle à 45 fois, celle de Palantir, je sais même pas ce que c'est Palantir, bordel, à 230 fois. C'est quoi Palantir? Je sais que vous savez, vous. Dans ce contexte, les alarmes ont commencé à retentir de toutes parts. Je vous fais les alarmes. Hein? Société 2, quoi? C'est donc quoi? C'est quoi Palantir? Entreprise de services et d'édition logicielle spécialisée dans l'analyse et la science des données. Merci, Adrien. Ok. Dans ce contexte, les alarmes ont commencé à retentir de toutes parts. Je vous ai fait les alarmes? Déjà ou pas? Ok, désolé. Ce ne sont pas seulement les lanceurs d'alerte comme Michael Burry qui ont fait du pessimisme à leur fonds de commerce, qui donnent de la voix. Les plus grands fans de l'IA envoient aussi des signaux de prudence. Hein. Le célébrissime investisseur de la Silicon Valley, Peter Thiel, a vendu toutes ses parts de Nvidia au troisième trimestre. SoftBank a fait de même. Lundi, Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, la maison de Google, maison mère, a reconnu qu'il existait, oui, une forme d'irrationalité dans l'actuelle frénésie. Si la bulle devait exploser avec violence, ces effets spéciaux vous ont offert, sont offerts par Samuel Etienne. Cette revue de presse n'est pas sponsorisée. Aucune entreprise ne serait épargnée, y compris nous, a-t-il dit. Le même jour à Francfort, le vice-président de la Banque Centrale Européenne soulignait la concentration de valeur et de puissance chez quelques grands groupes tech américains, exposant les marchés boursiers mondiaux à des risques liés à d'éventuels chocs. L'inquiétude vient du fait que les sommes en jeu ne sont pas que de la monnaie virtuelle. Aha ! La course à l'IA se traduit au contraire par des programmes d'investissement gigantesques. À eux quatre, les géants de la tech, Google, Meta, Amazon et Microsoft, auraient consacré 350 milliards de dollars en 2025 à de nouveaux investissements d'infrastructures. L'an prochain, ce sera au moins 400 milliards. Si on ajoute Oracle, l'addition se porte à 533 milliards. D'ici la fin de la décennie, McKinsey évalue à 5200 milliards de dollars les dépenses d'infrastructures requises par l'IA. Ces programmes géants semblent s'affranchir de toutes les limites physiques. Or, des questions émergent sur la capacité de l'écosystème à fournir en puces et en énergie en courant électrique, hein, les data centers appelés à pousser comme des champignons. Le secteur est aussi à la merci de disruptions brutales. La Chine est engagée dans la compétition avec un modèle moins vorace en capitaux qui pourrait faire école. Hein. Pékin a la main sur le robinet des terres rares. La course à la vitesse à laquelle se livrent les géants de la tech, les nouveaux ogres de l'IA pour accumuler le plus de capacités de seuil de calcul possible soulève des questions sur son financement. La première poste... Voilà. Ça fait flipper ce truc-là. En fait, la question qui vaille, la seule question qui vaille, c'est de savoir si les revenus seront à la hauteur des paris gigantesques qui seront engagés. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si à un moment, les investisseurs... On a le sentiment ou la crainte qu'ils vont pas, qu'il va pas y avoir retour sur investissement. C'est quoi cette coupe de cheveux d'oiseau tombé du nid ce matin? C'est catastrophique, ça. Et ben, ils vont retirer leurs billes et ils vont vendre. Et ça va faire un crack classique. Pour justifier ces valorisations, vous envisagez un niveau de productivité qui certes se concrétisera, mais peut-être pas aussi rapidement que le marché ne le prévoit. Quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, l'important en bourse, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir raison au bon moment. Ha ha ! T'as tellement raison. J'espère que j'ai réveillé personne. Si la bulle explosait, si la correction se transformait en explosion, quels dégâts cela provoquerait-il ? Les levées de dettes obligataires, de dettes privées qui se multiplient créent le risque d'une contagion sur les marchés. Et donc un effet systémique, c'est-à-dire une contamination au système boursier puis économique au-delà des entreprises concernées. C'est pas tellement la révolution IA qui est remise en cause. La question, c'est est-ce que les paris financiers ne sont pas démesurés aujourd'hui, quoi. À un moment, si les investisseurs décident de retirer leur bille, ça finalement ça va faire crack. Ok, intéressant. Vous en pensez quoi, vous, les beaux gosses? Vous en pensez quoi, les beaux gosses? Bulle ou pas bulle?
Je ne parle pas des bulles qu'on fait dans son bain. On en pense que c'est toi le beau gosse. C'est faux, mais c'est gentil. Oui, bubule. Grosse bubule. Moi, je dis bulle. Ok. Beaucoup trop de projets existent juste pour exister, donc oui, ça ne peut que redescendre. La question, c'est quand? Bubule. Ok. Oui, bulle. Simple respiration du marché, dit Coco Lastico. Oui, ça pourrait être une sévère correction aussi, ouais. Je vous lis. On aurait pu en avoir une, dit Tsupak, mais le fait d'en parler va empêcher que ça arrive. Je suis d'accord pour la correction, il y a plein de boîtes qui se sont fait financer pour de l'IA, me dit l'IA, mais qui ne produisent rien. Hein? Pas mal ça. Ok. Réajustement, mais pas éclatement. Estime Arna. Arnaqueur. Une bulle n'est pas une bulle si elle est connue de tous. Ah, c'est intéressant. Ok. Intéressant. Merci Renoir pour le Prime. Merci Van Cleef. Merci Aubin. Je remercie personne. Merci. Je remercie personne. Allez, on est sur quoi maintenant? Une bonne nouvelle. Parce que parfois il y en a dans l'actualité, mesdames et messieurs. Sur le bio. Et oui, 2h05. 2h05 qu'on cause. Mais en fait, c'est un marathon d'actualité tous les matins, cette histoire-là. Oh, hein. Et oui, le bio. Le bio va mieux en France, mesdames et messieurs. Et oui, j'ai des bonnes nouvelles. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Alors, vous êtes où, les amis de TikTok? Vous êtes là, vous êtes bien là. Hop. Bio, l'horizon se dégage. Ah, mais j'avais déjà mis la flèche. Ok, bon, je m'étais... Elle était déjà là. Elle était déjà en place. Incroyable. Après l'orage inflationniste, donc les prix, l'horizon se dégage pour le bio en France. Papap, c'est dans la croix. Malmenée par la crise inflationniste, l'agriculture biologique n'a pas sombré. 3 ans plus tard, la reprise est là, les ventes repartent à la hausse, mesdames et messieurs. Grâce à la fidélité des consommateurs et la réduction de l'écart des prix avec le conventionnel, la filière espère que la crise est derrière elle. Voilà. La crise de consommation qui a frappé la filière lors de la fièvre inflationniste, la hausse des prix, quoi, de ces 3 dernières années, est-elle derrière elle? Les signaux récents du marché français font en tout cas de la, état de la résilience des produits bio, qu'ils soient achetés dans les rayons des supermarchés ou chez les producteurs. Des chiffres, au premier semestre 2025, tout circuit confondu, la progression des ventes est estimée à plus 4%, hein, en valeur par rapport à l'année précédente. Dans le détail, cette reprise de croissance est surtout portée par les magasins spécialisés bio, plus 6%, et la vente directe, plus 8%. Donc plus dans les boutiques spécialisées, la vente directe, auprès des agriculteurs notamment, plutôt que dans la grande surface, d'ailleurs. L'attrait pour les produits locaux est le premier socle sur lequel se sont appuyés les agriculteurs bio pour traverser cette crise. Pas mal. Si la vente directe ne représente que 13,5% des parts de marché de l'agriculture biologique, elle est pratiquée aujourd'hui par près d'un producteur sur deux, 45%. De quoi assurer une part de revenus stable à la ferme sans intermédiaire. Yes! La fidélité de nos clients, c'est ce qui a évité à la ferme des années noires comme le reste de la filière. Souligne un viticulteur et éleveur bovin dans le sud-ouest qui s'appelle Kevin Serin. Il aujourd'hui est serein, bien sûr. Si la vente directe ne représente pas le gros de son activité, la commercialisation de bouteilles au caveau, de colis de viande dans le petit magasin qu'il a aménagé son exploitation continue à bien se tenir. Notre santé économique repose entre autres sur la quête de proximité des gens du coin et leur acte d'achat militant. Ah, pardon, on a un souci sur la flèche hors taxe. Le sommaire, il a... Je sais pas, il a changé depuis hier et la flèche ne veut plus tenir. Il y a un petit bug dedans. Désolé. C'est pas grave. Les clients veulent savoir ce qui compose leur assiette, et vous avez raison, ou leur bouteille, bon, et souhaitent mettre un visage sur celui qui le produit. De toute évidence, pour laisser passer l'orage, la filière s'est appuyée sur son socle d'adeptes. Pour passer outre la crise, des adeptes convaincus des vertus de leur mode d'alimentation et de consommation. Hier, on se posait la question avec le Parisien, mais comment aujourd'hui on peut bouffer sainement tellement les produits hyper dangereux pour notre santé se sont répandus un peu partout dans la bouffe, quoi. Là, on a des éléments de réponse. Les perturbations inflationnistes ont fait perdre leur repère aux consommateurs. Bon, la hausse des prix, quoi. Certains ont certes abaissé leurs dépenses alimentaires pendant un moment, mais seulement de manière conjoncturelle. Dans la durée, les consommateurs de bio sont restés fidèles à ce produit et celui-ci ne s'est pas effondré. Les chiffres attestent de cette résilience. Après avoir connu une croissance exponentielle d'une décennie, le marché a chuté en 2022, après un pic en 2020, voilà, avant de se stabiliser en 2024. Si la tendance actuelle se poursuit, 2025 devrait être une année de croissance. Chez Biocoop, leader des magasins spécialisés ou dans les produits bio, on espère un redémarrage durable. Ok. Qu'est-ce qui se passe du côté des grandes surfaces d'ailleurs? Leclerc, Auchan, Super U et autres grandes enseignes ont réduit leur gamme bio lorsque le marché était au creux de la vague en 2024. Engagés dans une guerre des prix sans merci, ces enseignes ont fait le choix marketing de diminuer l'offre bio en rayon. Ce faisant, elles ont provoqué un effet de vase communicant et poussé certains clients vers les enseignes spécialisées.
Eh ouais.
Victime de cette course à la baisse des prix, l'agriculture bio a dû faire le dos rond. Mais au fil des mois, un effet d'aubaine inattendu lui a permis de redorer son blason auprès des consommateurs. L'explosion des coûts de production de l'agriculture conventionnelle. La crise énergétique s'est répercutée sur le prix des intrants chimiques.
Ha ha ! Pardon, excusez-moi. Pesticides, engrais azotés, hop, les prix ont monté. Fabriqués avec du gaz russe. Ah, ah ! C'est incroyable.
Sur la durée, cette inflation brutale a profité à la filière biologique. Ah,
ah !
Ah ! Excusez-moi. Qui n'a pas recours à ces produits.
Alors là, celle-là, elle est bien bonne.
Et l'écart de prix s'est peu à peu gommé.
Ça c'est pas.
Voilà. Et les clients s'en aperçoivent, voilà. Donc dans les témoignages, voilà, qui est une jeune femme, 27 ans, j'étais habitué à faire toutes mes courses au Monoprix juste en face. Voilà. Dit Cassandre, c'était moins cher, plus pratique, mais au fil des mois, je me suis aperçu que mes brocolis, mes carottes n'étaient moins chers que de quelques centimes en comparaison des épiceries bio de ma rue. Dans le cas des fruits, c'était même le monde à l'envers. Des poires et bananes traitées avec des pesticides étaient parfois plus chères.
J'hésite. Est-ce que je vais acheter ma poire et ma banane avec des pesticides plus chères que mon produit bio sans?
L'interrogation est forte. Aux côtés du vin, les fruits et légumes sont les produits les plus forte croissance de la filière bio, de cultures très intensives en produits phytosanitaires lorsqu'elles sont cultivées en agriculture conventionnelle. De plus en plus de Français se disent que pour quelques centimes de plus, autant éviter un produit traité avec des pesticides. RGBA dit « Pas sûr que le Monop soit le meilleur exemple. » Alors oui, mais enfin, je crois que je connais ce Monop. Parce que l'article parle d'un Monop du 17e en face d'une rue avec des primeurs. Je crois voir où c'est. Et je peux dire que ouais, le Monop est pas forcément le supermarché où c'est le moins cher, mais je peux te dire que les marchés de primeurs de la rue d'en face non plus. Donc c'est la différence entre les deux. Tu vois, le delta, ça change rien. Cricris 7 nous demande: bonjour Samuel, es-tu pour débattre? Tout à fait Cricris, je suis tout à fait ouvert au débat. Voilà, et pour répondre à ta question que tu n'as pas encore posée, oui, le RN est un parti d'extrême droite. Mais après, je suis ouvert aux arguments parce que je les connais. J'ai reçu beaucoup de mails ces derniers jours. Oui, Staline ! Et les crimes de Staline ! Hein ? Et les 100 millions de morts de Staline ! Hein ?
Quoi ?
Oui, tu dis que le parti, c'est un... le RN, c'est un parti d'extrême droite ? Et les filles, alors ?
Hein, quoi ?
Mais quel rapport avec le... Je connais les arguments parce que je les reçois en mail tous les jours. Et alors, Philippe Laval, sous Pétain, c'était un homme de gauche ? Non, mais là, je vous parle juste du RN, moi, les gars. Donc oui, je suis ouvert au débat, mais je connais les arguments de gens qui connaissent bien leur histoire. Je peux poursuivre ? Désolé, hein, mais je reçois des mails tous les jours. Donc je me régale. Hein. Je me régale, c'est la régalade. Je vais éditer un bouquin avec les mails. Je vais éditer un bouquin. Voilà. Je vais l'appeler L'histoire pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas trop écouté. Oh ! Putain, Samuel, sérieux ? Non, là vraiment. Non, vraiment, non. Non, ça, non, vraiment, là, c'est pas très gentil, quoi. Donc, je poursuis sur le bio, par contre. Voilà. Donc, de plus en plus de Français se disent que pour quelques centimes de plus, autant éviter un produit traité avec des pesticides. Voilà. Ils sont informés des alertes de santé publique qui se multiplient. Voilà. Dans ce paysage bio... où l'horizon se dégage, un acteur peine à enclencher son redémarrage. Voilà. Les grandes surfaces, qui représentent toujours 47% des produits bio vendus en France, n'ont vu leur vente augmenter que très timidement. Voilà. Plus 1,4% en valeur sur les 6 premiers mois de l'année. Voilà. La grande distribution reste une locomotive indispensable pour relancer le bio, voilà. Alors qu'il reprend peu à peu sa place dans les rayons des supermarchés. La question est de savoir si leurs 10 millions de clients quotidiens monteront dans le train. Voilà. Parce qu'en fait... voilà, les grandes surfaces sont un peu retirées du marché du bio quand, au moment de la crise, ce qui a du coup favorisé les plus petites enseignes et aussi les agriculteurs qui vendent en direct. Donc, mais c'est sûr que pour que le bio progresse en France, il faut aussi que la grande distribution s'en empare. Voilà. Pas mal ce petit sujet en vrai. Après, on va parler des petits bébés. Vous en pensez quoi ? Hein ? Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle. Je vous lis, je suis en train de vous lire là. Et de faire une mini-sieste en même temps. J'ai un ami agriculteur bio, me dit Sikno, ça me rassure un petit peu pour lui. C'est dans La Croix l'article qu'on vient de lire. Oh, Zeldam, il reste un beau sujet, tu vas voir, sur la natalité qui est intéressant. Tu n'es pas tout à fait. T'as pas tout raté. Linux me dit, je ne comprends pas les gens qui ne vont pas automatiquement vers le bio par manque d'accès au prix. Ah pardon, tu dis l'inverse. Je comprends les gens qui ne vont pas automatiquement vers le bio par manque d'accès de prix. Bien sûr. Bien sûr. Et encore faut-il s'y retrouver dans les étiquettes. Parce que tous les bio... toutes les étiquettes bio ne se valent pas, hein ? Ça, vous le savez, hein ? Hein ? Par exemple, au charbon, pour ma part, c'est uniquement une question de moyens. Si le bio devient abordable ou moins cher, moi je fonce. Voilà. Personnellement, je privilégie le local au bio, me dit Will Smith. C'est pas Will Smith, c'est Will Smith. J'adore. Et quand je peux, je fais les deux. Voilà, et Olinox dit, manger bio, si c'est pour acheter un truc importé de loin, c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà. Oui, il faut faire attention à ce que vous achetez. Il y a bio et bio. Voilà. Jérôme a raison, le bio français et le bio espagnol n'ont pas les mêmes contraintes. Le bio espagnol permet l'utilisation de certains pesticides. Exactement. Faites bien attention aux étiquettes. Tout à fait. Mais pourquoi le message de Coco Lastico a été supprimé? Investissez dans votre alimentation, c'est tellement important. Je pense qu'il y a un misclic. Ton message me semblait OK. Non? Je pense que c'est un misclic. Je pense que t'as pris une balle perdue, frère. C'est une balle perdue, c'est rien, ça arrive, hein. Même au meilleur. N'hésitez pas à vous inscrire dans des AMAP, c'est bien les AMAP, locales, souvent bio, avec des prix très intéressants, car l'intermédiaire entre vous et les producteurs, ce sont vos mains. Je voudrais prendre un petit peu de temps pour lire le message d'Alia et Tus TV. Je proteste les busards cendrés, ce sont des rapaces, c'est ça? D'avril à août, dans les champs céréaliers depuis de nombreuses années, nous avons vu un réel recul de la biodiversité dans les champs de grandes cultures quand on n'entend plus aucun insecte ni aucun oiseau. Les pesticides ont détruit une très grande majorité des insectes nécessaires à la pollinisation et à la survie d'oiseaux qui s'en nourrissent. La loi du plomb est une catastrophe pour ça. Bon, ceux qui roulent en... Ceux... Il y en a qui ont des voitures? Il y en a qui prennent l'autoroute de temps en temps? Vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'insectes qui viennent se cracher sur votre pare-brise? C'est un vieux qui peut en témoigner. Le vieux, là, il y a 30 ans... Quand ça prenait la voiture hein, sur l'autoroute, putain, il fallait laver le pare-brise après. Hein. Hein. À chaque trajet, quoi. C'était un bordel. Il n'y a plus. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus d'insectes. Qu'à Paris, alors, un Samuel? Ah bah oui, les fameuses autoroutes qui traversent Paris. Merci, cher Lémiste, pour cette participation au débat. Le motard que je suis peut de nouveau sourire sans en prendre plein les dents. Oui. Il y avait une blague d'ailleurs sur les. Il y avait une blague de motard qui était de. À quoi reconnaît-on un motard heureux? Aux insectes sur ses dents. Eh ben, cette blague ne marche plus. On en parlera demain, Lord, je pense, de cette intervention du chef d'état-major. Ouais. C'est tellement vrai, la voiture est propre, c'est choquant carrément. Bah oui. Fini ça. Moi, c'est bien simple, j'ai enlevé le pare-brise sur ma voiture. Plus besoin. Alors les enfants râlent un petit peu, ils disent oui papa, on est enrhumé, on a froid. Y a plus d'insectes. Et hop, une économie. Bien plus immersif, exactement. Hein. Apprécier le contact avec l'air. Appréciez la communion avec la nature. Sentez les différences de température quand on passe d'un espace boisé à un espace plus urbain. Voilà, la douce caresse du vent sur votre visage, le rayon du soleil qui vient réchauffer votre joue. Et puis mettez une cagoule, bordel! Plus de pare-brise, moi. Hello Sam, comment tu vas? Mais moi, sans pare-brise, j'aurais froid. J'ai bouffé un pigeon en plein casque, merci la visière. Oh, putain, l'horreur. On a tous des cagoules, faut bien que ça serve. Alors, moi, j'ai des cagoules, moi. Oh, j'en ai plein des cagoules. Mais, enfin, peu importe, je ne vais pas aller sur ce sujet, puisque... Enfin, bref. Voilà. Ok, donc... La baisse des naissances en France. Ça, c'est pas nouveau, mais il y a un petit article dans La Croix sur mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi le silence? Pourquoi? 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 Quand tu penses. Hervé Villard. Pense à nous, je pense à nous. Tintin. 2h22. TikTok, je vous la mets, la flèche. Comment ça, cagoule en latex? Je n'irai pas sur ce terrain glissant, je vous l'ai dit. Ah, très bonne question. James Smither. Merci, James. C'est une question que j'attendais qu'on me la pose. Samuel, tu t'affirmes jamais être ouvertement de gauche. C'est vrai, je ne l'ai jamais affirmé. Voilà. Pourtant, tu fais constamment vers des streamers ouvertement gauchistes pour donner la force. Je pense qu'il manque un mot, peut-être raid. Peut-être tu fais constamment des raids, peut-être, vers des streamers ouvertement gauchistes pour leur donner de la force. Comment pourrais-tu expliquer ce phénomène ? C'est une très bonne question et je te remercie de l'avoir posée. James Smither. Je suis content que tu mettes le doigt sur quelque chose qui me fait souffrir personnellement. Je cherche désespérément des streamers ou des streameuses d'extrême droite. Je n'en trouve pas. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Je vous lis, hein, je lis vos mails. Mais pourquoi vous créez pas des chaînes Twitch ? Pourquoi on vous voit pas en live en fait ? Alors certains évoquent des noms, mais nombreuses quoi, je veux dire des chaînes quoi. Parce que si vous êtes si nombreux et si représentants de la France d'aujourd'hui, mais pourquoi vous créez pas vos chaînes en fait ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Enfin, la question c'est ça. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? La timidité ? Est-ce que c'est la loi ? Parce que certains propos pourraient tomber sous le coup de la loi ? Je ne sais pas. Mais voilà, je me pose la question, quoi. Non, j'arrête de troller. Je raide des gens que je trouve sympathiques parce que je trouve leur contenu sympathique. Voilà. Je t'avoue que je ne me pose pas tellement la question de la ligne éditoriale, enfin de la coloration politique du streamer que je raide en fait. C'est plus la qualité du contenu. C'est plus la qualité du contenu en fait qui me fait raide une chaîne quoi. C'est plutôt ça en fait. C'est plutôt ça. En vrai. On parle des petits bébés ? On parle des petits bébés ? Regardez comme il est chou celui-là. Bon, on n'en fait plus, c'est fini. On n'en fait plus des petits bébés. On n'en fait plus. Bon, vous savez qu'on fait de moins en moins d'enfants en France. C'est la baisse du taux de natalité. Alors, dans d'autres pays, c'est bien plus grave encore, hein. Dans la plupart des pays européens, et le taux de natalité il baisse dans tous les pays du monde. Voilà. Alors on en parle souvent. La Croix nous fait un énorme dossier qui m'a un petit peu déçu en mode ah oui, mais c'est grave, c'est grave pour la croissance. Oui, mais non, en fait, hein. Vous n'allez pas faire des bébés aux Français et aux Françaises pour relancer la croissance. Hein. Vous n'allez pas dire aux couples, les gars, il faut ken. Hein. Il faut qu'elle ait des fins reproductives parce que la croissance, hein, parce que l'industrie, parce que l'économie. Tous les pays occidentaux ? Non, tous les pays, Matt. Fais une recherche rapide, tu vas voir. Voilà. Pour réarmer démographiquement la France, quoi. Pour même financer notre modèle social. C'est une décision personnelle, c'est une décision intime, c'est une décision d'hommes et de femmes et de couples. C'est une décision dans le cadre de l'amour. Voilà. Quel Français va faire un enfant parce qu'on lui a dit « Oui, mais chef, ça va faire baisser la croissance. » Voilà. Donc non. Donc ça, je passe le truc sur, ah oui, mais la croissance, oui, mais vous vous rendez compte, dans le dossier littéralement, là, oui, mais alors les ventes de jouets alors. Dans le dossier, il y a, bah oui, mais alors, l'industrie du jouet alors. Vous avez pensé à l'industrie du jouet? Les gars, levez la main ceux qui vont faire des enfants parce qu'ils veulent relancer l'industrie du jouet. Il y a un passage sur les aliments pour bébés. Mais vous avez pensé à l'industrie des aliments pour bébés? Levez la main ceux qui vont faire des enfants pour relancer l'industrie du bébé. Non, je vous passe les arguments, on est d'accord. Bon, hein, on est d'accord que c'est pas très... Par contre, il y a un article intéressant. C'est pourquoi on fait moins de bébés en France. Et là, l'article, il donne peut-être pas toutes les réponses, mais il en évoque quelques-unes, et il n'est pas impossible que vous soyez d'accord avec certaines d'entre vous. D'entre elles, pardon. L'accès au logement est le premier frein à la natalité. Voilà. C'est une dame qui s'appelle Constance de Pellichy, qui est présidente de la mission d'information de l'Assemblée sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France. Donc a priori, elle a un peu bossé le sujet. Voilà. Et les députés UDI aussi, par ailleurs. Voilà. Donc question de Lacroix. Vous présidez la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France. Quel est le rôle de cette instance? Et Odinox qui dit, je crois qu'on idéalise beaucoup l'arrivée des bébés. Ah, moi, je peux pas répondre à cette question parce que moi, je suis un gâteau des bébés, moi. Des enfants, je suis très famille. Voilà. C'est mon côté un peu réac. J'ai toujours voulu avoir 10 000 enfants. Et en plus, avec la même femme. Waouh, la phrase est super bizarre. Non, si elle veut aussi, quoi. Voilà. Puis pas 10 000 en vrai, mais je sais pas, 3, 4, 5, 6. Voilà. Évidemment, à condition que ce soit un projet, hein, collectif et de couple, bien sûr. Et donc, je suis mal placé pour dire ça. Mais moi, je trouve ça formidable. Et donc, que pense cette dame? Quel est le rôle d'abord de son instance? L'objectif de cette mission d'information est de comprendre pourquoi les Français font moins d'enfants. Ok, ça m'intéresse. D'en analyser les conséquences sur l'économie. Bon, bah ça, hein. Les fermetures d'écoles. Ouais, c'est vrai. Le pacte social. Oui, d'accord. Oui, notre modèle social, du coup, bah, il est moins financé. Oui. Il y a plus de personnes, par exemple, à la retraite et moins de personnes actives pour cotiser, pour financer. Ok. Ça, vous connaissez. Et de formuler des propositions. Là, ça commence à m'intéresser. Concrètement, on ne donne pas d'injonction aux Français pour qu'ils fassent plus de bébés. Eh bien, tant mieux. Parce que les Français, ils font ce qu'ils veulent. Vous faites ce que vous voulez. Hein, je vous le répète souvent, je le redis pour ceux qui étaient absents. Vous voulez avoir des enfants? Tant mieux. Hein. Et personne ne doit vous dire que vous ne devez pas en avoir. Il doit vous dire, par exemple, si vous devez avoir un ou deux ou trois ou quatre ou cinq. Vous ne voulez pas avoir d'enfants? Tant mieux. Et ne laissez personne en juger et vous dire que vous devriez avoir des enfants. Vous faites ce que vous voulez. Donc, je suis d'accord avec cette phrase. On ne donne pas d'injonction aux Français pour qu'ils fassent plus de bébés. Okay. En revanche, bah, les gens qui veulent des enfants, bah, il faut peut-être... créer les conditions pour que ce soit ok, acceptable sur un plan économique, par exemple, au niveau du pouvoir d'achat, du logement. Et puis ceux qui n'en veulent pas, ben, faut pas les emmerder. Voilà, c'est tout. Mais on veut comprendre pourquoi il y a un écart entre le nombre d'enfants désirés. Ça, c'est intéressant. Quand on fait des sondages, des enquêtes auprès des familles, on serait autour d'un nombre d'enfants désirés par famille de 2,3. C'est-à-dire deux enfants et un petit bout. D'accord? Ça, c'est le nombre d'enfants qui seraient désirés en France. Voilà. Or, le taux de fécondité en France actuellement, il est d'1,62 enfants par femme. Donc, un enfant et un 0,62. Vous voyez, c'est ceux qui sont un peu petits, là, comme moi. Voilà. Qu'est-ce qui explique qu'on renonce à avoir un enfant, puisqu'il y a un delta entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants qu'on a. Donc, ça voudrait dire que la société ne permet pas aux individus d'aller au bout de ce désir d'enfant. Là, pour le coup, je suis assez sérieux. Qu'est-ce qui explique qu'on renonce à avoir un enfant? Et sur quoi nos politiques publiques peuvent agir? Là, ok, je veux bien entendre ce discours. Là, c'est intéressant. Et là, on voit qu'il y a un contexte économique, social, qui fait que bah, il y a des enfants, des gens qui veulent des enfants, ceux qui en veulent, très bien. Mais en fait, ils vont pas au bout de ce truc parce qu'en fait, le contexte n'est pas top, quoi. N'est pas idéal. Qu'est-ce qui explique blablabla? Et sur quoi nos politiques publiques peuvent-elles agir? Ça, du coup, c'est la responsabilité du politique. Le deuxième objectif est de travailler avec l'INSEE et l'INED sur les hypothèses fiables permettant de réfléchir à des moyens de compenser cette baisse de la natalité. On sait qu'en 2035, on aura un trou générationnel. Parce que les enfants qui ne sont pas nés ces dernières années ne seront pas sur le marché du travail. Comment compenser le manque d'actifs qui portent notre pacte social? C'est un vrai sujet. Comment appréhender aussi les nouveaux enjeux en matière d'économie, les capacités à trouver des salariés, d'évolution des communes sans école? Bah, pas d'enfants, pas d'école. Hein. Depuis septembre, nous auditionnons des experts dans différents domaines et en janvier, nous produirons un rapport. Alors moi, je l'attends, ce rapport, qui à partir de ces auditions formulera des conclusions, des recommandations d'ordre réglementaire ou législatif. Ce rapport pourra ensuite donner lieu à une proposition de loi. Ou les enfants pas nés, c'est les enfants qui ne sont pas nés, c'est pas des enfants rectangles avec de la chapelure. Hein. Je crois que certains font la confusion dans le chat. Merci Gabe T-Rose. À ce stade, quel frein à la natalité avez-vous identifié? Ce qui ressort des auditions d'experts, c'est d'abord le problème de l'accès au logement. Ah, voilà, merci. Les jeunes couples vivent dans des logements plus petits de 18 mètres carrés par rapport aux générations précédentes. Cela représente une pièce en moins. Tiens donc, 18 mètres carrés, c'est une belle chambre même. Hein. Voire deux chambres. Tiens donc. Ah ouais, bah ouais, les familles, elles ont moins grand qu'avant. Bah déjà, on peut peut-être commencer par là. Or, il est difficile d'avoir des enfants lorsqu'on n'a pas la place pour les loger. Bah oui, peut-être. Il y a aussi des difficultés financières, en particulier pour les classes moyennes. Tiens donc. Celles-ci sont plus touchées par la baisse de la natalité que les précaires et les plus aisés. Donc les classes moyennes, plus touchées par la baisse de la natalité que les familles les plus pauvres et à l'inverse les plus riches. Chaque enfant leur fait perdre du pouvoir d'achat à ces classes moyennes. Et cette perte n'est pas compensée par la politique familiale qui vient soutenir les plus précaires. Voilà, les allocations familiales, depuis quelques années, depuis Hollande, François Hollande, elles sont conditionnées aux revenus. Hein. Et puis du côté des plus riches, bon, bah, évidemment, ça, on peut se permettre. Quoi. Hein. Puis il n'y a pas d'alloc, c'est pas très grave. Ça va, ça va quand même. Il y a aussi la confiance en l'avenir, et vous êtes très nombreux à m'en parler très souvent. Les Français sont très pessimistes. Faire des enfants pour leur offrir des conditions de vie moins bonnes et dans un monde qui dysfonctionne, c'est compliqué. Et ça, j'entends ça aussi. On a également relevé des contraintes liées à la grossesse, à l'accouchement, au postpartum. Sans oublier les questions de fertilité avec un accès territorial inégal au centre de procréation médicalement assisté ainsi qu'une méconnaissance de la fertilité masculine. Enfin, l'accès au mode de garde, lui aussi inégal selon les territoires, est parfois trop coûteux pour garder les enfants. Hein, les crèches, tout ça. Et bien sûr, les enjeux d'égalité femmes-hommes. Beaucoup de femmes renoncent à un enfant à cause de l'impact possible sur leur carrière, leur vie professionnelle, mais aussi en raison de la charge mentale et domestique. Eh ben oui. Vous voyez, l'article est court, mais je trouve ça quand même très intéressant. Je fais une petite pause pour vous lire un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat? MMG dit « Enfin, on pose les bonnes questions ». J'ai le sentiment que c'est ce que fait cet article. Ouais. C'est faux, ça coûte pas cher un gamin. Si, Steph. Ah, pas pour les familles très à l'aise. Tout va bien, mais ça coûte des sous, ça coûte des sous. Kantec dit, il n'y a pas un modo pour lui demander de plus frapper sur son bureau, c'est un véritable enfer pour le casque. Les modos. À quel moment il y a un modo, enfin, qui va élever la voix dans ce chat pour dire aux vieux streamers là, d'arrêter, s'il vous plaît, de frapper sur sa table. Désolé, je ferai plus. C'est vrai, les modos, bordel. La crèche coûte une fortune, dit Ploum Ploum Ploum. On a hésité à ce que mon épouse arrête son activité vu la différence entre son revenu et le coût de la crèche. Bah voilà. Hein, c'est devenu trop cher, trop compliqué, trop anxiogène de faire des enfants. Alors faire des enfants, c'est pas ça qui est le plus anxiogène, c'est plus de après de. Non mais on s'est compris. Hein, j'ai un enfant de 2 ans, on vit pour nos factures, dit Yessine. Hein. Totalement mon cas, mais dit si, tant pis, mon enfant restera unique, enfant unique. Et il est unique en plus. Il est réel, me dit BTO, qu'à l'époque de nos parents, le père seul pouvait parfois subvenir aux besoins de la famille. Aujourd'hui, les deux parents qui travaillent, c'est limite, voire pas possible pour y subvenir. Salut Lemming. Merci pour ton message. Réel me dit Lionersa, je suis une jeune cadre de 26 ans, avoir un enfant avec mon travail, le prix du logement, c'est trop compliqué. La problématique des réseaux sociaux et l'harcèlement croissant chez les enfants me fait peur aussi. Je pense aussi, et Sweet Carol a raison, qu'on s'autorise enfin à faire autrement. C'est toujours mal accepté, mais mieux que de ne pas avoir une famille classico-classique. C'est un truc qui n'est pas évoqué dans l'article. Je crois qu'auto, malgré la pression sociale qu'il peut y avoir sur les jeunes hommes et les jeunes femmes, quand est-ce que tu vas nous faire un enfant ? J'ai l'impression quand même que cette autre voie, elle est beaucoup plus possible, acceptée, tolérée, entendue qu'avant. Voilà. Simplement de fait de pas avoir d'enfants ou de pas avoir beaucoup d'enfants. Mais il y a ça aussi. Perso, je sais que si je suis enceinte, me dit Crayola, je perdrai mon travail. Mise au placard, jugement sexiste, c'est terrible. Voilà. Je cherchais à avoir une place en crèche pour mon enfant, me dit Axirius, mais la région me dit qu'il y a 10 demandes pour une place. Etienne me dit, j'ai 3 enfants, je confirme, ça coûte plutôt cher. T'as qu'à les mettre à bosser aussi un peu. Eh, hey, t'as bien un placard dans la maison, un truc, tu leur mets une machine à coudre, des chutes de tissu, tu leur dis, tu fais des vêtements pour Shein. Hein, eh, vous êtes pas très débrouillard non plus, hein. 3 enfants, c'est le début d'une PME, hein. En plus, tu les payes pas cher, hein. T'es même pas obligé de les déclarer, hein. C'est tes enfants. Tu leur dis que c'est pour leur apprendre la vie, tu dis ça. Mais pourquoi tous les soirs après l'école, pendant 3 heures, je suis dans le placard à coudre des trucs, là. C'est pour t'apprendre la vie. Tu me remercieras plus tard. Vous n'êtes pas débrouillard. Oui, bah oui. Anomalie Blue Raven. J'ai 32 ans, pas d'enfant. En total accord avec mon homme, je suis très heureuse comme ça avec tous mes animaux. Je pense que chacun son histoire, son vécu. Et qu'on n'a pas à faire un enfant pour faire plaisir à la société. Je préfère me faire plaisir et développer mon entreprise en priorité. Écoute, oui. C'est exactement ça. Le parcours de chacun t'amène à un rapport particulier à la famille, à la paternité ou à la maternité, au désir d'enfant ou pas. Et ça, personne ne doit en juger. Moi, par exemple, je veux repeupler la France à moi tout seul. Ça, c'est mon kiff. Donc, j'en ai que 2 pour l'instant, mais j'en voudrais beaucoup. Mais de la même manière que je ne juge pas l'absence de désir d'enfant, du coup, j'aime pas trop qu'on juge mon désir d'enfant, quoi. Enfin, je voudrais qu'on me laisse un peu libre, libéré, délivré par rapport à ça, quoi. Moi, je suis en foule rarement, ouais. Moi, je trouve ça. Je kiffe trop la famille, moi. J'en fais encore 2 et on peut faire des 5 stacks. Enfin, 4 enfants avec moi, ça fait 5. Mais Hélène joue pas. Et Hélène jouerait un peu à Valo. On aurait 3, ça suffirait. On partirait en 5 stacks, quoi. Mais elle joue pas, donc il faudrait qu'on en fasse 4. Dans l'équipe de foot, ça va être compliqué. C'est les parents de Gotaga qui ont formé une five stack pas mal. Gota, il a 4 frères et sœurs? Waouh, attends, quoi? Félène, on t'a parlé de grossesse gériatrique à 35 ans? Félène, en attendant, j'ai eu une première grossesse à 35 ans, ça fait bizarre la première fois qu'on t'annonce que tu as une grossesse gériatrique. 35 ans, c'est considéré comme une grossesse gériatrique? Putain, c'est jeune quand même. Oh la vache, après 35 ans, c'est gériatrique? Oh putain, un chien. Waouh! Waouh! Waouh, c'est le terme? Oui, parce qu'en fait, bon, bah, biologiquement, plus la femme est. Biologiquement, c'est plus. Oui, pour elle et pour l'enfant, plus tu t'approches d'un certain âge et plus il y a une prise de risque. Ça, c'est les médecins qui le disent. Mais quand même, waouh! Pour le coup, c'est de la médecine. Bon, merci, c'était cool ce matin. Merci. Bon, bah, on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Sur Twitch et TikTok. Et puis ce soir pour du gaming sur Twitch, je pense. Hein? Ouais. Ami TikTok, je vous remets. Hop. Je vous rappelle qu'on a un très beau Samplay dimanche soir à 20h aussi. Avec l'ami Alderiat. Un des anciens sur Twitch pour nous faire découvrir un jeu qui est un jeu de fou, Skyrim. Le visuel est en train d'être fait là pour que le nom du jeu apparaisse un peu plus. Je vais le poster sur les réseaux cet après-midi, je pense. Et puis on se retrouve demain matin sur TikTok pour la revue de presse. Je vous embrasse bien fort et merci pour ce matin. C'était cool de vous avoir avec nous. Skyrim, je crois que c'est cool. Prenez soin de vous les TikTokers, la jeunesse là. Et sur Twitch, on va faire un raid. Des bisous. Alors, les amis, qui est-ce qu'on raid? Alors, on rappelle la politique du raid ici. On cherche quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un qui a un joli contenu. Évidemment, tout à l'heure, j'ai un peu trollé. On s'intéresse pas tellement à sa fibre politique, à ses opinions, quoi. Arrêtez de mettre de la politique partout, même si la politique est partout. Qui est en live là? C'est moi ou les stats? Là, je vois les audiences de tous mes amis là. C'est moi ou les stats de Twitch? Là, j'ai les gens, les audiences sous les yeux là. J'ai vu des trucs passer là-dessus. C'est moi ou les stats de Twitch ont vachement baissé? Les chiffres? Pour tout le monde? PA en apparaît dans Popcorn? Mais qu'est-ce qui se passe? Nouvelle politique de Twitch, ça a baissé depuis la mise à jour, ils comptent plus les lurkers. C'est quoi cette histoire? Moins de gens sur Twitch, notamment à cause des pubs. Mais y a pas de pub chez moi. Ah, c'est le blocage des robots, les bots. D'accord. Les viewers de l'ombre sont pas comptés, c'est l'anti-botting. Ils ont revu la façon de mesurer les audiences. Mais ça a beaucoup baissé. Là, je vois les audiences que je vois, là, c'est pas les audiences de d'habitude. Hein. Si tu n'écris pas dans le chat, tu n'es pas compté. Lutte anti-bot qui fait que les personnes qui ne parlent pas ou qui regardent plusieurs flux ne sont pas comptées. Mais moi, j'ai énormément de gens qui lurquent, en fait, qui m'écoutent raconter mes âneries, mais qui parlent pas, qui écrivent pas. Ces gens sont plus comptés. Ah la vache! Ah ouais, mais c'est pour ça que les stats ont autant baissé? D'accord, parce que là je vois les chiffres, c'est impressionnant quoi. D'accord. Ok. Attendez, vous voulez qu'on fasse un essai? Tout le monde peut écrire juste là un message? Tous les gens qui écoutent là, vous pouvez écrire juste un mot, un test dans le chat. Maintenant tout le monde là pour voir si ça produit quelque chose? Taper un caractère. Vous pensez que ça peut avoir une incidence sur le nombre de viewers? Là, pour l'instant, j'en vois pas, mais après, il faut que ça actualise. Tout le monde peut écrire un petit mot? Ah putain, j'ai pris 400 viewers. En 2 secondes. Oh la vache! Ah ben oui, c'est vrai! Continuez pour voir si ça monte. C'est incroyable. C'est fou. Ah ouais, vous aviez raison. D'accord, ok. Ah, il y a un truc. D'accord. Donc, ok. Bon, ça explique les stats. Bon. Bon, enfin, les stats, c'est pas tout. L'important, c'est d'être ensemble et de passer de bons moments. Qui est en live? Qui est en live? Ok. Ok. Ah, qu'est-ce qu'ils font les amis là? Ah ok, super, ça c'est pas mal ça. Eh, ça vous dit du sport? À qui encore? Là, j'ai une petite envie là. Ça vous dit du sport? Il y a les amis de RMC Sport qui sont en live. Ils sont sur le tennis de table avec les frères Lebrun qui sont en duo contre des. Est-ce que c'est une équipe indienne? J'ai l'impression que c'est le drapeau indien. Ça peut être pas mal, non? RMC, ils font des chouettes trucs sur Twitch. Allez, let's go. RMC. RMC Sport. Avec les frères Lebrun. Espèce de goat du tennis de table. Je crois que ça se passe bien pour eux là. Je vois 2-0, 4. Ouais, ça a l'air de bien se passer en plus. Les amis, merci pour ce matin. Prenez soin de vous. À ce soir pour du gaming. Je sais pas encore quoi. Voilà. En tout cas, c'était bien cool de vous avoir avec moi. Voilà. Je vous dis à ce soir. Voilà. Soyez heureux. Et faites attention à vous surtout. Let's go! C'est parti pour le raid. Des bisous. Des poutous même. Des poutous baveux.
S'excuse. Et après, mon père, ça va écrire.